insulté.
Wow.
Mais je suis pas insulté, je suis
désillusionnée. Elle est désillusionnée par la vie.
Ben, c'est parce que là, Audrey, il va falloir que tu ouvres ton micro.
Qu'est-ce que t'as fait à ma co-animatrice du midi? Moi, d'après moi, t'essaies de la tasser. C'est le même, ce métier-là.
J'ai pas assez d'heures en ondes, j'en veux plus.
C'est ça. T'essaies de tasser Pascal, c'est vrai, tu l'as cassé totalement.
Mais non, mais c'est tellement drôle, c'est que je racontais à Pascal que...
Mais avec beaucoup d'aplomb, là.
Ben oui, mais on a la journée des vœux de Noël, le Claire Communication, qui avait lieu le 30 octobre dernier, puis moi, j'étais en vacances. Et là, j'ai reçu environ trois messages, pour être précise. Hey, là,
c'est
je
beaucoup.
Dirais pas des messages.
Dans la situation, trois.
Juste trois.
C'est beaucoup.
Trois messages. Donc...
Ça, c'est elle qui l'a reçu, ça, c'est sans compter moi ce que je me fais dire au hockey,
ce que
je me fais dire par mes chums.
Quatre, parce qu'il y a une de mes chums de filles qui m'a demandé aussi. Fait quatre messages où on me dit « Audrey, va regarder la vidéo où Yann et Pascal font la promotion des vœux de Noël. » Puis regarde comment Pascal dévore Yannick du regard.
Je suis d'accord avec elle.
Et là, on me demande, est-ce que ces deux-là sont en relation? Puis moi, je suis comme...
Ah, bon, Yannick.
Ah, je sais, je suis plus capable.
Ben, Yannick...
Arrête de me regarder de main.
Est-ce que t'es plus capable? Écoute-moi, Yannick. Est-ce que t'es plus capable parce que faut qu'enfin qu'on le dise?
Tout ce harcèlement-là que tu me fais avec tes yeux, là... Oui. Je suis outré.
Là, Pascal, il faut que je te fasse une confidence. Yannick m'a dit tantôt qu'il était sur le bord de faire une plainte pour harcèlement.
Oui.
Fait qu'il
faudrait
vraiment que tu saches.
Ah non?
Ben oui.
De le regarder de cette façon-là.
Exact. C'était un peu tannant, tout ça. Malgré que je t'ai habitué.
Hey, sérieux. En plus, c'est tellement mon regard, genre, de malaise où là, on se faisait déranger 150 fois. J'étais comme, on va-tu finir avec la vidéo? J'étais concentrée sur ce qu'il disait. Mais peut-être qu'à Yannick, ça serait le temps qu'on le dise.
De?
Publiquement.
Non.
Tu vas encore le garder secret?
Oui.
OK. Ça oui. Fait un meilleur show, hein?
Je suis gay!
Mais ça, tout le monde le savait, Yannick.
Ouais.
Quand t'es trop macho...
C'était ça au primaire.
Quoi? Ah, arrête!
En passant au primaire, là, j'avais pas d'amis de gars parce que les gars étaient persuadés que j'étais gay.
Oh.
Puis c'est pas grave, là, mais c'est juste que quand t'es jeune, t'sais, l'important, c'est de t'entourer d'amis de gars. Puis moi, là, le renversement s'est fait au secondaire. T'sais, quand j'ai commencé à participer aux activités sportives avec les collègues de l'école, t'sais, j'ai joué au football avec eux autres, tout ça. Là, ça a comme switché de bord. Mais t'sais, je vous parlais des activités que je faisais quand j'étais jeune. Là. Il n'y en a pas une de vous deux qui a allumé. Là. Moi, j'étais le poteau pour l'élastique.
Tu en parlais souvent, mais je trouvais...
Il y avait le poteau d'Hydro-Québec, puis il y avait moi, puis il y avait les filles qui faisaient de l'élastique.
Mais te connaissant, je trouvais que c'était une stratégie pour parler à des filles.
Oui. Non, pas en toutes. Non, pas en toutes. C'est juste j'avais
J'ai jamais pensé à ce que ça peut avoir l'air.
Les chums de gars, tu sais, j'avais mes petites games de hockey une fois par fin de semaine, là, jouais hockey local. Mais sinon, à l'école, c'était catastrophique. En plus, je faisais du théâtre.
Ah, ben là!
Ouais.
Les enfants sont méchants.
J'avais été en compétition avec Vincent Guillaume Motis.
Oui.
Ça se peut-tu?
C'est un comédien.
C'est un comédien?
Ça se peut-tu?
Puis on allait à l'école Sainte-Chrétienne, puis j'avais été en compétition pour le premier rôle au théâtre. Puis c'était... Albert, c'était de la pièce de théâtre, c'était Albert à travers le temps, quelque chose de genre. Puis imagine-toi, tu sais, tout le monde me traitait de gay déjà, puis là, après ça, moi, je fais du théâtre, puis je remporte le premier rôle. Avant Vincent Guillaume Matisse, qui lui était comme le... C'était les personnages de l'époque, là, je pense qu'il jouait comme Mozart.
Le pire, c'est que lui, sa carrière va bien, il est dans un film qui est au cinéma.
Ouais, lui, au moins, sa carrière va bien.
Et toi, ça a comme floppé, là.
Hey, mais j'arrive pas à y croire des réponses qu'on a en ce moment du monde qui nous écrivent, parce que, très honnêtement, il me semble que c'est évident, Yannick.
Non, ben pour moi, oui, pas pour toi, là. La façon dont tu me regardes, c'est très louche.
Mais là, je vais venir à la rescousse de Pascal.
S'il te plaît.
Il y a une chose que je comprends. On regarde le monde d'un
zoo. Regarde, j'ai la preuve ici.
Quoi?
Vincent Guillaume Motis est là. Tu le vois, là?
Ouais.
Mais est-ce
puis
qu'on
moi,
le reconnaît,
je suis là. Ben, on le reconnaît, je veux dire. Mais je pense qu'il jouait Charles Lindbergh, par exemple.
Pourquoi ces photos-là sont sur Facebook?
Ah, c'est des petits secrets. Mais regarde celle-là ici, c'est moi, là.
Bon.
Regarde comment j'étais habillé. J'avais mon chandail Varnet.
C'était bien en mode.
C'était mon plus beau chandail. Je pense que j'avais pris ça chez Crotreau. Puis j'avais des jeans trop courts, visiblement, avec mes Converse 301 Daou.
Tout ça est incroyable.
C'était complètement malade, mais c'est ça, j'avais remporté le premier rôle. Fait que oui, j'étais le gay du primaire, finalement. Tout le monde me traitait de cette façon-là.
Excuse-moi, Éric Bruno, semble-t-il,
aussi?
Il est aux femmes, là.
Pourquoi, Éric
Bruno?
Parce
que je ne veux pas approprier le fait de faire du théâtre ou d'être le poteau d'élastique.
Non, mais je veux dire, attends, on est des années 80, Pascal.
Oui, c'était plus rough.
C'est pas 2024.
Oui, c'était plus rough. Mais moi, On s'entend qu'on n'a rien.
Je veux saluer Christian qui dit... C'est vrai que vous avez l'air de deux ados qui se tapent ses nerfs et personne ne serait surpris que vous finissiez ensemble.
Bon, en fait, je reçois des « Pouahaha, toi et Yannick, personne ne croit ça. » t'sais. Merci beaucoup. Mais
Salut Audrey et Pascal. Pouvez-vous dire à Marceau que je ne l'ai pas oublié? Je continue à chercher dans mes archives photos de Spring Break. Il voulait confirmer si la fille sur laquelle elle avait un kick était peut-être... Hey, ça, c'est chien Dave.
Quoi?
Ah ouais, dis son
nom. Hey, je vais le raconter, là. Parce que là, Dave, il... Mais ça me fait paniquer à quel point notre cerveau, des fois, peut nous remémorer des choses qu'on a complètement oubliées, OK? J'en reviens pas que je compte ça.
Mais moi, j'entends des explications.
Puis, faut pas que ça arrive à ses oreilles, OK? Parce que ça se peut que ça soit pas elle. Mais j'ai été en Spring Break avec la gang du cégep de Limoilou, OK? Et on avait été... Dave, peux-tu me rappeler où est-ce qu'on était? Parce que je me souviens qu'on avait bu pas mal, là, puis il y avait un bar qui était là, qui était complètement malade.
Presque majeur, là, c'est ça qu'on comprend?
Je sais pas, Dave, on avait quel âge, sérieusement?
Si c'était 12, on a un problème.
Mais bref, je sais que la gang du cégep de Limoilou était là, OK? Puis en fin de semaine, Dave, c'est un ancien policier de la GRC, puis en fin de semaine, j'ai une image dans ma tête qui me rappelle ce voyage-là, puis la fille que j'avais connue à cette époque-là ressemble deux gouttes d'eau à Catherine Dorion.
Fait que t'aurais eu un kick.
Fait que ça serait probablement elle, si on réussit à le confirmer par les photos, OK? Mais c'est quoi le pire? C'est que je l'ai eu en entrevue une couple de fois, Catherine, puis j'ai jamais loadé.
T'as jamais réalisé?
Jamais loadé, mais j'avais eu un kick complètement débile sur elle en voyage.
Mais est-ce que c'était Catherine, le prénom de la jeune fille, aussi, à ce moment-là?
Je
ça pourrait être
pas.
Un bon indice.
Je me rappelle pas, je me souviens...
T'es-tu réciproque
je
aussi?
Sais que j'y ai parlé, puis qu'on se faisait des sourires, mais c'est absolument rien pour ça.
C'était un kick,
mais
t'avais pas
j'étais
son
là,
prénom.
Wow, puis tu sais, je veux dire, c'était à Panama City Beach. C'était pas en Floride, c'était... C'est où, Panama City Beach?
On est deux à googler. Ben oui, c'est en Floride.
C'est dans le haut de la Floride?
Ben, ville en Floride, Panama City Beach.
Mais à quel point c'est important dans
l'histoire,
ça va? Il
n'y en a pas deux, Panama City Beach.
C'est dans le comté de B. Comté de B, oui.
En tout cas, bref, c'était là. Mais c'est ça. Mais ce qui est capoté, c'est que je me rappelle comme de ça 20 ans plus tard, mettons.
Mi-vingtaine, pareil. Vous étiez en mi-vingtaine, alors vous étiez majeur.
Oui, on était majeur. Mais bref. Je pense que c'était Catherine Dorion. C'est juste que j'ai juste loadé en fin de semaine, puis il est en train de regarder, des photos de ce voyage-là.
Pendant que tu racontes tout ça, moi, je pense aller supprimer la vidéo de nous vos vœux de Noël. Là. Là, c'est quoi? J'ai-tu un regard aguicheur au quotidien? Là?
Je sais pas. Moi, c'est les auditeurs qui disent ça, Pascal. Moi, j'ai rien dit.
Il n'y a pas d'auditeurs qui ont dit ça. Il y a trois personnes qui ont écrit à Audrey un peu en panique.
Plus son ami de fille.
Et là,
plus des collègues de travail.
Allô, gang. Pascal, je te verrais beaucoup plus avec Reg en couple qu'avec Yannick.
Je suis d'accord.
Tant
qu'à donner le mauvais sort à quelqu'un, on le donne à Reg.
Oh! Mais on s'apprécie bien. C'est juste qu'on est très potes, là.
Exact.
Pas rien d'autre.
Ouais. Panama City Beach. Fait que bref, si c'est elle, on aura peut-être confirmation. Mais écoute, ça fait des années.
Il faut que tu nous reviennes.
Ouais.
C'est ça, c'est dans le haut.
Peut-être qu'on l'appelle?
C'est dans... Non, surtout pas.
Peut-être que pour elle, c'est une honte aussi. Là.
Oui, bien probablement. Puis surtout, c'est ce qui est encore plus capoté, c'est qu'on a fait des entrevues ensemble qui étaient assez confrontantes, là. Puis qu'on se rappelait pas de ce temps-là.
Ouais, mais là, une histoire que tu te rappelles pas de son prénom, c'est sûr que ça se peut que tu te rappelles pas de quoi elle...
Ça t'est-tu déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que tu savais que tu connaissais, que tu avais été en interaction avec, tu y as parlé, puis tu n'as jamais été capable de la mettre dans le temps où tu l'as rencontré?
Ben, régulièrement. Tu sais, juste Danny Morissette, quand il est venu ici en studio, là, la première chose qu'il me dit, c'est tu n'as jamais catché j'étais qui hein, quand on s'est vu à lutte. C'est qu'on a tellement différents univers. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs villes aussi.
Les gens qui sont dans la restauration, ça leur arrive
oui,
beaucoup aussi.
Oui, tu sais, j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé dans plusieurs villes, j'ai étudié dans plusieurs villes. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne sais plus d'où tu connais la personne, c'est en plus la rencontre dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel tu l'as connu. Là, à un moment donné, Audrey, je vais le reconnaître n'importe où, là, mais des gens que tu n'as pas rencontrés très, très régulièrement, oui. Ça arrive. Je trouve ça stressant. Je trouve ça un petit peu stressant.
Oui. Y a des gens qui pensaient que tu étais en couple avec Max, parce que ça a l'air que tu regardes Max
mais
aussi de la même façon.
Hey, sérieusement, voyons.
Là, j'ai ça, plus rien dans mon sac pour te défendre.
Mais avoue que ça se... Tu sais, ça se peut pas, là.
Non, c'est sûr que non.
C'est merci. Tu sais, moi, Yannick, je t'apprécie comme personne, mais tu ne représentes en rien le genre de personne avec qui...
Non, tu l'as dit. Tu l'as
puis
dit l'autre jour en
nombre. Chose.
Tu t'intéresses à des gars qui n'intéressent personne, puis c'est correct. C'est elle qui l'a dit. Louis Gab qui dit paniquez pas. Des gens ont dit la même chose de Véro, qu'elle semblait avoir un crush quand elle et Denis ont fait un live juste avant de venir à Boulevard.
Ouais, mais eux sont déjà sortis ensemble.
Ouais, c'est ça, c'est un ancien couple. C'est par exemple, ça. Autres, là.
Quoi?
Ouais.
Ils ont déjà consommé.
Mais t'es sérieux, Yann?
Ils ont déjà été un couple pour de vrai.
Oui, début vingtaine, Véro et Denis ont été ensemble à peu près un an et demi, genre.
Puis là, elle est rendue comme la bosse à Denis, techniquement.
Ouais. Ouais, exact. Mais ça l'était aussi dans le temps, je pense.
Ça, c'est malade. C'est comme l'Empire contre-attaque.
C'est capoté. C'est le plus long couple de l'univers professionnel.
Pascal dit à Pascal, Pascal, c'est rien en bas d'un gars de 2 étoiles Michelin.
Franchement.
Ouais. C'est ça, je sais pas cuisiner. Qu'est-ce que j'aurais qui l'intéressait?
Mais je m'excuse, là, j'ai jamais voulu te regarder d'un regard étrange. Là.
Écoute, j'en souffre.
Ah oui, ça paraît. T'as l'air souffrant, là.
Oui.
C'est presque mortel.
Oui, tu sais, je vois qu'un peu partout là, au Québec, il y a comme un genre de meltdown dans les médias là, sur la victoire de Donald Trump. Moi, c'est un meltdown que j'ai de la façon dont tu me regardes constamment. <c'est>...
Je me sens comme un morceau de viande.
Oui, je me sens de même. Oui. C'est pas facile.
Mais
les
vois-tu,
gars.
Aujourd'hui, c'est Caroline Néron qui te regarde comme ça.
Oui, pourquoi t'as une voix rauque?
Je sais pas. Je me suis levée de même. Je choisis un petit rhume qui s'en vient.
T'es allé chercher des crévenées au dépanneur?
Je me les ai tapées une après l'autre hier.
Les crévenées. T'as-tu connu ça, les gros cendriers en vitre?
Ah oui.
T'as connu ça,
foncé.
Hein?
Puis là, ça s'accumulait, puis ça sentait, puis à un moment donné, ils vidaient ça, puis ça prenait la moitié de la poubelle.
Ouais. Puis aujourd'hui, là, les gens qui étaient des fumeurs de l'époque sont rendus intolérants envers ces fameux cendriers-là où il y a comme 4000 cigarettes dedans, alors qu'à l'époque, tout le monde avait ce type de cendrier-là. C'était sur pied.
C'est ça, j'allais dire.
C'était
il y avait
sur pied en bois. Puis ouais. Après ça, tu avais le cendrier de verre qui était au-dessus. Puis tu avais comme 45 mégots de cigarette.
Puis il était lourd, là.
Vraiment.
C'était d'une lourdeur.
Je parlais de mon grand-père avec Pinchot. Tantôt, il arrivait à la maison. Lui, il avait son crachoir.
Ça m'écœure, par contre.
Il avait son crachoir. Il avait sa pipe.
Oui, il y avait-tu un petit mouchoir en papier?
Il disait tout le temps, j'ai le goût d'une bonne pipe. Puis là, il sortait sa pipe. Il y avait son tabac. Puis il y avait son... comment tu t'appelais ça? Un genre de foulard.
Ben, c'est ça, un mouchoir en...
Un mouchoir, c'est ça, t'as raison. Fait qu'il mettait son mouchoir dans sa poche. C'est weird à quel point. Quelqu'un qui vit comme ça, là, mettons des années 70-80, là, qui arrive en 2024, il se fait constamment juger. Ben, alors qu'à l'époque, c'était la norme.
Le crachoir est un peu écœurant, là.
Ouais, le crachoir, moi, je pensais que c'était pour le cigare.
C'est pourquoi il avait besoin de cracher de même.
Je sais pas.
C'était-tu un tic, mettons, c'était-tu une mode à l'époque?
Je sais pas. Je sais qu'il écoutait le baseball puis il chiquait du tabac.
Ah, ben là, ouais. On a la réponse.
T'as-tu déjà chiqué ça, du tabac, Audrey? T'as-tu déjà essayé ça?
J'étais entourée de gens qui consommaient ce genre de trucs-là. J'ai pas. Ça m'écœurait un peu.
Mais coudonc, t'avais quel âge?
Quand les trucs de. Oui, mais de ça, chiquage. C'est pas comme de la chou, ça?
Oui, c'est ça.
C'est du tabac.
C'est revenu à mode, cette
affaire. Ben, les pochettes.
C'est revenu à mode.
Il y a des petites pochettes maintenant. Oui, mais c'est comme illégal. Là. C'est pas supposé être vendu, mais ça se vend.
Ça se consomme encore au moment où on se parle.
Ah, ouais.
C'est revenu.
Ça goûte-tu le tabac?
Ben, t'en as qui sont à saveur, puis t'en as qui goûtent le tabac. Ça dépend ce que t'achètes.
Et ton haleine doit sentir la marde.
Ça doit être dégueulasse.
Ben, les petites pochettes qui goûtent le tabac, moi, j'en ai pas vu.
Moi, c'est au cégep que j'avais des amis qui avaient...
Mais dans les nouvelles, là, la recrudescence, là, ça, c'est une petite saveur ou c'est un petit quelque chose. Puis il y en a qui sont tellement fortes, là. Ta gencive, elle est... Moi, je l'ai essayé cet été. Il y a quelqu'un qui me l'avait qui m'avait proposé. Je dis bon, je vais essayer, je vais savoir de quoi je parle, si j'ai à parler. La petite enveloppe qui circule dans un genre de contenant circulaire. Mmh. Là. Ouais. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Puis je te dis, ma gencive est devenue gelée, là. C'est tellement fort, c'est tellement une concentration intense de tabac que ta gencive est gelée.
Tu n'aurais pas donné une étoile Michelin.
Non. Puis t'as l'air d'un petit babouin en plus.
Il y a Eric qui parlait du cendrier tantôt. C'est vrai que le trépied, ben nous autres chez nous, il était en bois, là. Mais il y en a qui réussissaient à avoir des pattes de chevreuil.
Oui! Ah oui, c'était tout.
On se rappelle des souvenirs.
Zine, c'est ça le nom de la petite.
C'est Zine?
Oui.
Je connais pas ça. Il y avait les fameux verres de peau de moutarde, là, qui étaient très à la mode.
Les verres de peau de moutarde.
Oui, il y avait...
Ah oui, avec les signes de cartes.
Les signes de cartes.
Oui, on avait déjà parlé ensemble.
Zen, nicotine, pouches.
Bon, ben tu vois.
C'est ça, Pascal?
Des pochettes de nicotine.
Fait que t'en as à menthe. Mm.
C'est pas illégal, il y en a au couche-tard. C'est rendu au couche-tard. Vous me surprenez. OK.
Mais
ça donne des faibles quantités. Peut-être que c'est le plus fort qui ne sont pas adaptés au marché. Disons-le de même.
Êtes-vous obligé de cracher quand vous prenez ça?
Ça fait la même chose que de la chou. Fait que oui, tu salives beaucoup.
Tu salives beaucoup?
Oui.
Fait que c'est peut-être pour ça que dans le temps, les grands-pères avaient des crachoirs. Mais je me souviens que lui, il fumait la pipe. Puis je sais pas si vous autres, vous avez déjà été en présence de quelqu'un qui fumait la pipe, là. Mais ça sentait bon, là.
La pipe.
C'était fou à quel point ça sentait bon dans la maison. Mais... cigarette, j'étais pas capable, malgré le fait que j'étais entouré de fumeurs. Les parties de Noël, je m'endormais pas parce que j'étais fatigué. C'est parce qu'on était dans le salon et les yeux me brûlaient, là, tellement qu'il y avait de la cigarette dans la maison. Je me souviens que l'odeur du tabac à pipe était exceptionnelle.
En Europe, là, il y a encore la possibilité de fumer sur des terrasses, de restaurants, des choses comme ça. Je me suis fait boucaner là, à une et une autre reprise, puis on oublie à quel point c'est désagréable. Là. La cigarette, pendant que tu manges, tu bois un verre.
Sur une terrasse?
Ah! Te faire boucaner parce que le bonhomme est en avant, puis lui, il aime ça, puis il jase.
C'est sûr que ça disparaît, la cigarette, fait qu'on est devenu très intolérant par rapport à ça. Je t'en avais parlé, je pense, il y a peut-être 2 ans, Pascal, on avait travaillé ensemble, puis j'étais sur la rue Saint-Jean, à Québec. Puis il y avait une personne qui était en face de moi qui marchait, puis 2 autres personnes qui étaient en face d'elle qui fumaient la cigarette. Puis la personne qui était en face de moi s'est plainte des 2 personnes. On était sur le trottoir, là. Puis elle s'est plainte que les 2 personnes fumaient. Mais là, t'as peu, là. Ils ont le droit de fumer, ils sont sur le trottoir, là. Mais je comprends que sur une terrasse, Pascal, moi, je me rallie à toi, là. Sur une terrasse, quand t'es en train de manger, puis tu te fais boucaner, c'est ordinaire.
Mais là, j'étais en Europe, fait que c'était pas moi qui fais les mœurs, il y avait pas de réglementation là-dessus.
Ben, à Québec non plus, c'est pas toi qui fais les mœurs, là.
J'ai changé de place. Non, mais en voulant dire, j'ai pas dit au monsieur, pouvez-vous arrêter de fumer? Puisque c'était comme ça, puisque dans la réglementation, ils ont le droit, moi, j'ai changé de place. J'étais à la table où c'était sûr que j'allais pas me faire boucaner. Ouais. J'étais pas
Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a déjà fumé pendant des années puis qui a arrêté de fumer depuis une couple d'années. Ces gens-là sont devenus extrêmement intolérants.
Intolérants, ça.
Puis ils sentent la cigarette des fois à 100 km. Là.
Ouais, c'est une addiction pareille. Ouais. Hein.
Moi, c'est le pot que je sens beaucoup. Je n'ai jamais vraiment fumé de pot de ma vie. J'ai essayé ça 2-3 fois comme tout le monde pour voir ce que ça faisait, mais j'ai pas accroché à ça. Puis quand j'étais en moto, Pascal, il y a des gens qui fument du pot directement dans le char. Je le sens en arrière.
Tout est plus fort.
Ouais. Ils sont avec leur vapoteuse. Là.
Dans des blocs aussi, là, ça c'est un peu tannant, parce que quand t'as l'échangeur d'air qui est connecté, là, ouf! j'ai pas eu envie d'être buzzé, là.
Ouais.
Votre printemps, vous pouvez aller fumer ailleurs.
Mais est-ce qu'on devient intolérant? Est-ce qu'on devient trop intolérant, ces gens-là? Parce que techniquement, ils sont chez eux. Là. C'est comme... moi, les premières fois où j'ai eu des gens qui étaient de d'autres cultures, de d'autres religions, qui sont venus habiter dans mon bloc appartement, là, l'odeur de la bouffe a changé. Là.
Ouais.
Ça sentait beaucoup les oignons. Là. Je sais pas pourquoi ils tripaient ces oignons tant que ça, mais ça sentait extrêmement fort. Mais aujourd'hui, dans ma maison, si ça sentait ça, je serais intolérant. Là.
La nourriture, André, je me dis, t'as pas le choix d'être tolérant à, mais la consommation de, puis souvent les blocs, t'as plus le droit, là.
De fait fumer dans les logements, t'as plus le droit.
Il y a beaucoup de logements que c'est non-fumeur, beaucoup de logements que c'est pas de cannabis, même depuis que c'est légal. Il y a des propriétaires qui ont leur propre loi. Dans ce qui est rénové, là, souvent, c'est demandé que ce soit fait à l'extérieur. Je sais pas s'ils ont le droit d'appliquer cette règle-là, mettons, si c'est une loi, puis ils pourraient aller à court avec ça. Mais je sais que moi, longtemps et souvent, j'ai vu... non-fumeurs.
Ouais, moi aussi, j'ai vu ça. Je serais curieux de savoir ils ont le droit de t'empêcher de fumer de la cigarette directement dans ton logement. Mais oui, j'ai vu ça dans les quand il y a un appartement disponible. Là, demande personne. Maintenant, on le voit. Hein. Idéal pour personne seule, sans enfants. Ils disent pas sans enfants, sans animaux.
Idéal personne seule. Je veux dire, le message est passé aussi. Là. Sans fumer, sans animaux. Calme, ça c'est dit aussi maintenant. Environnement paisible.
Ou quand t'en rencontres un qui veut fumer chez vous, puis il dit non, je vais aller fumer en dessous de la hotte. Puis lui, il a vraiment l'impression que ça se diffusera pas dans la maison. Là.
L'odeur, moi, de la cigarette, je suis vraiment intolérante. Ma mère, elle a fumé longtemps pendant de nombreuses années, puis à un moment, ça me complexait d'aller à l'école parce que quand tout le monde s'est mis à arrêter de fumer, moi, ma mère, elle fumait encore. Puis elle faisait en dessous de la hotte. Puis à un moment donné, j'ai dit, même en dessous de la hotte, tes cheveux viennent qu'à sentir, ton vêtement sent. Puis je trouvais que quand je sortais de la maison, ça sentait. Mais c'était pas épouvantable. Fait que j'imagine pas les fumeurs qui étaient constamment en train de fumer une cigarette, peu importe où, dans leur logement ou dans leur maison, l'odeur pogne, puis elle sort pas. T'as beau te laver les cheveux 2 fois. Là.
J'avais pogné 2 minutes. Moi, j'étais en train de rénover avec mon beau-père du temps un des logements, puis la dame était dans ce logement-là depuis 25 ans, Pascal. Elle a fumé pendant 25 ans dans ce logement-là, puis visiblement, elle avait pas... bon, quand les murs, il y avait quelque chose de sale, elle passait une guenille, là, mais elle avait jamais repeinturé en 25 ans. Puis on a lavé 3-4 fois les murs, chaque. Après ça, on a mis 3-4 couches de primer pour que finalement on puisse réussir à mettre une couche de peinture ou 2 ou 3. Hey. Puis tu sais quoi? 2 semaines après, un mois après, ça sentait encore la cigarette dans l'appartement. On avait tout refait à neuf. Là.
Ça avait été tellement poreux que ça avait. Mais regarde, il y a quelqu'un qui te comprend qui dit j'ai aidé mon propriétaire à rénover quelques appartements et je comprends pourquoi maintenant il est interdit de fumer à l'intérieur et met des bonhommes qui ont la nausée.
Oui, puis le pire, moi, c'est qu'à l'époque, ça me dérangeait pas. Tu travaillais dans la restauration, je sais pas si dans le temps, il y avait le droit de fumer, mais non. Moi, je préférais travailler dans la section fumeur. Puis le lendemain, quand je me réveillais, je prenais mon linge, puis je le mettais dans la laveuse. Puis juste le fait de le prendre, de le mettre dans la laveuse, je sentais l'odeur de la cigarette qui était imprégnée dans mon linge.
Pourquoi tu préférais cette section-là?
Parce que c'est une section hyper payante.
Ah, OK,
là.
C'était pour
ça. On finissait des caisses de 2-3 000 piastres.
La cigarette était joyeuse ainsi que l'alcool?
Oui, ben ça allait souvent avec. Puis les gens qui fumaient étaient tout le temps un peu plus relax. Mm. Tu sais, c'était moins familial aussi. Fait que c'était des gens qui sortaient. C'était leur soirée à eux. C'était payant.
Tu devais sentir, c'est comme les bars dans le temps.
Jeudi, vendredi, samedi. Les bars, c'était ça aussi. Des fois, tu disais, y a-tu une machine à boucan? Non, c'est juste que les gens fumaient.
Quelqu'un nous écrit, je suis allé en Suisse l'an passé, ça fumait dans le restaurant. Impression de retour dans le passé. C'est vrai que c'est quand même choquant quand tu vois ça. Là. Pas choquant, tu te fâches, mais choquant, tu es surpris. Là.
Oui, ben parce qu'on n'est plus habitué.
Ben non, exact.
Mais quand je parlais de la personne intolérante, là, j'étais sur Saint-Jean. La personne est en face de moi, puis elle s'est plainte des deux personnes qui étaient en face d'elle parce qu'ils fumaient sur le trottoir. Là, un moment donné, reprends sur toi. Tu contrôleras pas le vent. Là.
Non, mais il y en a qui vont aller fumer près de la terrasse, sont pas un nombre de mètres exigé, puis là, toi, t'en as pendant que tu manges. Si c'était ça, je les comprends. Lorsque mon frère était jeune, on a fait éclater un gros cendrier. Ma mère parlait au téléphone et on s'était amusé à se faire un feu dans le... Je comprends rien de ce qui a été écrit à la fin. J'ai tout essayé, j'ai tout donné, là. Mais ça a fendu sur l'épaisseur, puis il dit que c'était ben épais, ce cendrier-là. Puis il y a du monde qui se rappelle des gens qui vidaient le cendrier de l'auto dans les stationnements.
Dans les stationnements. Je n'avais pas un à Sainte-Marie, moi, à Lumière. Il avait ouvert la porte, on était en lumière rouge sur le boulevard principal. Il avait ouvert la porte, il avait vidé son cendrier à terre, il avait refermé la porte, il était parti. Ouais. Wow. Ça, c'est des cochons,
un petit
là.
Ben oui. Mais c'est parce que. Puis en même temps, je suis pas tant sûr. Mettons, tu retournes dans les années 80. C'est du monde qui pensait qu'il n'y avait pas de problème. T'sais, maintenant, on a la conscience environnementale, la conscience de l'autre, le ci, le ça, la cendre. Au moins 72 heures que ça peut rester chaud puis ça peut allumer un feu. Mais on le savait pas nécessairement dans ces années-là, je pense.
Mais je pense que le gars, à moins d'être vraiment fucké, là, il était au courant qu'ouvrir la porte, prendre son cendrier, mettre toutes les botches à terre sur l'asphalte, ça allait pas disparaître du jour au lendemain. C'était juste que c'était un cochon.
Un cochon.
J'ose pas imaginer comment ça se passe chez eux.
Mais c'est peut-être bien propre, justement.
du mouvement chez les remparts de Québec qui ont échangé ce matin le défenseur de 20 ans, Antoine Michaud, cataracte de Shawinigan, en retour d'un choix de 11e tour. Il n'y avait plus nécessairement de place pour lui dans la récente acquisition de Thomas Auger, qui est aussi âgé de 20 ans. Puis les Canadiens ce soir, victoire ou défaite contre les Devils du New Jersey, Pascal? Nostrada Pascal?
Qu'est-ce que tu veux, Canadien?
Ça serait le fun. On a 4 victoires, 7 défaites. Là. Donc, ce serait le fun d'accumuler quelques victoires. Quoique le plan, j'imagine, c'est encore de perdre cette année pour aller avoir un meilleur choix au repêchage l'an prochain. Stratégie que je trouve complètement ridicule. Mais oui, 19h ce soir, le Canadien de Montréal qui affronte les Devils du New Jersey. Devils du New Jersey qui ont une bonne saison. 8 victoires, 5 défaites. Et sinon, ce soir, toi, tu seras devant ton écran pour voir les Bengals de Cincinnati qui affronteront les Ravens de Baltimore. Ça risque d'être un bon match. J'y vais avec les Ravens. Le match débute à 20h15.
Merci beaucoup. Moi, j'y vais avec ton Canadien. Toi, tu y vas avec les Ravens. C'est correct, la compétition est lancée, mon Yannick.
On est là. Merci beaucoup à toutes les gens qui m'ont envoyé de la sympathie là, pour ce que je pouvais vivre depuis 2 ans avec Pascal.
Tu m'écœures. Breaking news, Yannick et moi, nous ne sommes pas un couple.
Ah, c'est fou ce que je peux vivre.
Ah oui, pauvre
homme. On lâche pas. Oui, pauvre homme. On vit.
Pauvre bête.
Marceau, le midi. Avec Marceau et Pascal CV.
Pascal qui est en feu aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a. D'après moi, c'est parce qu'il fait soleil. On avait quoi, 2 jours où on n'avait pas grand lumière. Puis là, ben c'est reparti au moins jusqu'à ce soir. C'est ce qu'on nous mentionne. Donc, alternance soleil et nuages pour aujourd'hui, minimum de plus 1. Ce soir, peut-être des petits nuages, minimum de plus 1. Demain, vendredi, ce sera nuageux. Puis le soleil, ben on l'attend pour de bon samedi avec un maximum de plus 5 degrés. Et dimanche, ce sera un ennuagement. Un ciel dégagé, un ennuagement en après-midi, maximum de plus 5 degrés. Donc, on sera gâtés pour samedi du moins. Vous avez des choses à nous dire, il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Donc, merci de nous faire parvenir l'information. Et passons donc à notre prochain invité, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Salut!
Salut, Yann!
Tu distribues encore des autocollants, de ce que je comprends. Tu es dans le secteur de Bellechasse il y a de ça quelques jours.
J'étais là hier. Cet après-midi, je vais être du côté de Thetford Mines.
Bon, tu te promènes à la grandeur du Québec pour tes autocollants. C'est quoi qu'il y a sur tes autocollants?
Mon char, mon choix.
Mon char, mon choix.
On veut, c'est ça, c'est la campagne pour dire qu'on est contre la politique du gouvernement qui veut abolir la vente de véhicules hybrides puis à essence au Québec. Et je suis content parce qu'il y a quelques jours, les libéraux se sont joints à nous. Ils ont décidé que même si on votait au mois de septembre en faveur du règlement de la CAQ, finalement, nos arguments étaient tellement bons. Puis il y avait un sondage qui était tellement populaire pour nos idées qu'ils ont décidé d'embarquer dans la gang. Fait qu'on est bien contents.
Ouais. Ça te tente-tu quand tu réussis à faire changer les autres parties d'idées puis qu'ils te donnent pas le crédit?
Ben non, écoute, là, tu te bats à la limite, tu te bats pour les idées, tu te bats pas pour toi-même. Là. L'idée, c'est de faire changer le cours de d'opinion des gens. C'est pas de t'accorder du crédit. Là. Si tu veux t'accorder juste du crédit, tu fais d'autres choses dans la vie.
Ouais. Hey, écoute, avant la pause, je parlais avec Pascal de l'excellente chronique de Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Québec qui parle de la victoire de Trump. Et lui, ce qu'il dit, c'est si jamais la gauche veut comprendre, voici quelques conseils. Puis il donne différents conseils. Pascal nous a fait entendre aussi un autre truc fort intéressant. Puis, j'y avais posé comme question, tu sais, c'est quoi le pourcentage d'Américains qui sont pas nécessairement des Trumpistes qui ont fait un gros fuck you aux médias à la grandeur de l'Amérique? Puis, j'ai inclus le Canada, puis j'ai inclus le Québec aussi là-dedans. Là.
C'est intéressant, c'est de savoir combien qu'il y a de gens, pourquoi les gens ont voté Trump. Mais puis là, c'est moi, ce qui me fait capoter, c'est la réaction depuis 24-48 heures.
C'est un meltdown carrément, là.
Écoute, là, la pire, ça a été, je pense, Kim Lizotte, là, qui est allée d'une lettre à sa fille, là, comment elle a fait reculer les droits des femmes, puis comment elle était passive par rapport à ça, puis comme sa fille va-tu en vouloir, parce qu'elle peut... C'est pas même tu votes pas aux États-Unis, t'es pas américaine, les lois s'appliquent pas à toi. Mais au-delà de ça, ce qui s'est passé hier aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec les enjeux qui intéressent une petite élite, là. Ce qui s'est passé hier aux États-Unis, là, c'est que les gens ont dit qu'ils voulaient du changement, puis qu'ils sont écœurés d'avoir une élite politique qui est déconnectée de leur réalité. Le message de base, là, c'est celui-là. Je cherchais pas de midi à 14 heures, là, c'est juste ça. Puis ce matin, j'ai partagé un exemple de ce qui m'est arrivé justement à Saint-Henri dans Bellechasse hier. Écoute, la mère de famille, tu sais, c'était le lendemain de l'élection américaine. Là. Il y a une mère de famille qui me dit qu'elle arrive là avec ses quatre enfants. OK? Elle s'appelle Nadine. Elle a fait 20 minutes de détour avant d'aller porter ses enfants à la garderie pour venir me voir et chercher son sticker, mon char, mon choix. Puis elle a pris 2-3 minutes pour m'expliquer pourquoi elle était là, puis pourquoi elle était contente de ce qui s'était passé hier aux États-Unis avec Donald Trump. Et elle m'a dit que ça te ramène les deux pieds à terre. Elle me dit, écoute, moi, mon chum est une adjointe administrative, son chum travaille sur la construction. Elle dit, nous autres, là, on arrache. Là. Puis elle dit, on travaille fort, t'as pas idée. Puis elle dit, payer l'épicerie à toutes les semaines, on a l'impression que ça monte. Elle dit, en janvier, mon hypothèque arrive à échéance, ça va me coûter 200$ de plus d'intérêt. Elle dit, quand j'entends des politiciens me dire qu'ils augmentent le salaire de 30%, qu'ils donnent des millions à Northvolt, qu'ils veulent enseigner la théorie du genre à mes enfants, qu'ils sont complètement sur une autre planète, qu'ils continuent à penser que je vais me rouler en char électrique à un char qui est en moyenne à 75 000$, alors que moi, je suis même pas capable de boucler mon budget à la fin du mois. Elle dit, ils vivent sur une autre planète. Puis elle dit, je suis ici aujourd'hui, puis si je me réjouis de la victoire de Trump, c'est à cause de ça. T'sais, le message, il est simple. Il suffit d'écouter les Nadines de ce monde. Les Nadines, là, ils sont allés voter aux États-Unis il y a 2 jours, puis ils ont élu Donald Trump président parce que c'est le seul qui les a écoutés puis qui leur a parlé, qui leur a proposé des solutions concrètes. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est pas une question parce que c'est des vidanges, c'est pas des nazis. Il n'y a pas 73 millions de nazis puis de vidanges aux États-Unis. Là. Faut arrêter ça, là.
Ouais. Mais, tu sais, moi, Éric, ce qui m'a tué, là, c'est quand des médias québécois comme La Presse ont décidé d'accepter de l'argent du gouvernement. On dirait qu'à un moment donné, ben ça a fait en sorte que les journalistes travaillaient plus pour le gouvernement que pour leurs lecteurs. Puis là, ben tout le monde semble être embarqué là-dedans au Québec, puis ça penche juste d'un bord. Il y a jamais... Là, on est chanceux parce qu'on a un Stéphane Bureau là, qui fait un contrepoids. On a un gars comme Mathieu Bock-Côté aussi qui fait des contrepoids. Mais je vais te dire que les deux, là, à chaque fois qu'ils se prononcent directement dans les médias, les autres collègues sont pas très contents là, qu'on ait ces gens-là en entrevue.
Comme par hasard, les deux n'habitent plus au Québec. Hein? je dis ça comme ça. Puis l'affaire des médias, le seul signe encourageant, je pense que c'est très encourageant par rapport à ce qui s'est passé cette semaine aux États-Unis, c'est que je pense que c'est la première élection des réseaux sociaux. C'est sûr que c'est X aussi grâce à Elon Musk, là, mais c'est la première fois que les réseaux sociaux ont eu beaucoup plus d'impact sur l'opinion puis sur la sortie de vote que les médias traditionnels. C'est la victoire des réseaux sociaux sur les médias traditionnels. Ça confirme le déclin, Mais là, on a passé le point, je pense, où il y en a un qui domine l'autre. Historiquement, les médias traditionnels dominaient. Et je pense que ça, là, cette élection-là, c'est le moment où on a pu mesurer que Joe avait maintenant plus d'impact sur l'opinion que les médias traditionnels.
Non, et puis, en fait, ça va juste faire en sorte que les médias traditionnels vont devoir se poser des questions. Puis j'espère qu'ils vont le faire, honnêtement. Je veux dire, les TVA, je veux dire, c'est une belle entreprise. Ils font du bon journalisme quand ils sont très factuels. Par contre, pour ce qui est des opinions, c'est tout le temps juste d'un bord. C'est l'impression que j'ai. Même affaire pour ce qui est de RDI. Là. Mais bref, ils vont se poser des questions, puis on va peut-être voir
plus.
Mais
il faut qu'ils s'en posent, mais j'ai peur qu'ils s'en posent pas assez. Quand je lis des commentaires qui me disent que Kamala Harris a perdu là, parce que c'est une femme noire, puis que c'est des homophobes, puis les sexistes, racistes, misogynes qui l'ont battu, là, ils n'ont rien compris. Là. Ça n'a rien à voir avec ça.
Mais d'un autre côté, Eric, ces gens-là, il faut qu'ils se fassent voir, il faut qu'ils se fassent lire, il faut qu'ils se fassent entendre. C'est basé sur quoi leur salaire? C'est juste pour être là ou bien c'est pour attirer comme une certaine clientèle qui pourrait être intéressée par les nouvelles qu'ils font ou encore les opinions qu'ils peuvent avoir? T'sais, ces gens-là vont avec leurs propres opinions, mais je me souviens pas c'est quel éditorialiste de la presse qui est rendu, pour Québec Soldat. C'est Vincent Marissal. Quand il s'est fait crisser dehors, c'est parce qu'il n'y a personne qui lisait ses chroniques. Mais ce gars-là était à la presse depuis des années et des années. Il n'y a personne qui lisait ses chroniques, mais le gars était payé pareil. La presse endurait ça parce qu'il était du bon bord.
Ben oui. Puis maintenant, il y en a de plus en plus qui ont été subventionnés pendant quelques années. Fait que même s'ils n'étaient pas lus du tout, c'est ça qui est le drame d'avoir subventionné les médias. C'est qu'au lieu que ces gens-là soient à l'écoute de leur lectorat ou de leurs auditeurs ou de leurs téléspectateurs, ils ont été à l'écoute des gouvernements qui les subventionnaient.
Oui, puis ça, les gens s'en sont rendus compte. Les gens s'en sont rendus compte. Hey, je voulais parler avec toi de Sylvain Lévesque. C'est le gars qui t'a battu ça, dans la circonscription où tu t'es présenté. Sylvain Lévesque qui a dû démissionner dans les dernières heures de son poste de deuxième vice-président à l'Assemblée nationale parce qu'il a trompé la commissaire à l'éthique et à la déontologie et a tenté d'entraver son travail. Si Sylvain Lévesque avait fait ça là, pendant un an, enquête policière, puis devant un juge, il serait en tôle. Mais la Coalition Avenir Québec se sont réunis hier, ont dit « Oh, on va le garder pareil. »
Ben oui. C'est hallucinant là, pour ceux qui n'ont pas suivi ça. Là. La commissaire à l'éthique a ouvert une enquête, là, ça date du mois de janvier dernier, parce qu'il y a une citoyenne de Chauveau, là, dans le nord de Québec, qui s'est rendue au bureau de circonscription de son député. Elle avait un différend avec le ministère des Finances. Et elle avait un dossier, elle est arrivée là, puis elle a présenté ça à son député pour qu'il essaye de l'aider. Il a dit « Rédige-moi, résume-moi ton cas. » Ça avait bien du bon sens ce qu'elle défendait. Puis il dit « Je vais présenter ça au ministre des Finances, je vais aller le voir, je vais lui donner ça, puis je vais lui présenter ça. » Fait que la femme rédige tout ça, puis elle envoie ça au député. Il dit « OK, merci, je vais présenter ça au ministre des Finances. » Deux minutes après que l'adjointe du député a envoyé le message pour dire qu'il allait faire le suivi approprié du dossier de la citoyenne, deux minutes après, à partir du compte LinkedIn de l'adjointe en question, elle reçoit une invitation à donner 100$ à la Coalition Avenir Québec de François Legault en échange d'une rencontre avec le ministre des Finances. Déjà là, ça part bien. Là. Ça, c'était la raison pourquoi il y a eu une enquête.
Oui.
Mais c'est encore pire que ça. Le vrai scandale, il n'est même pas là. Après ça, quand la commissaire commence à enquêter, elle essaie de voir c'est quoi, quand est-ce que le dossier a été transmis au ministre des Finances. Fait que là, Sylvain Lévesque dit que ça a été telle date, puis il a fait telle affaire. Elle demande au ministre des Finances, il ne trouve rien. Elle demande à la chef de cabinet du ministre des Finances, il ne trouve rien au ministère des Finances. Finalement, on se rend compte que deux semaines après, donc un an et deux semaines plus tard, il a envoyé à partir de son compte, de son adresse personnelle, son adresse courriel personnelle, un courriel à la chef de cabinet du ministre des Finances avec le dossier et qu'il a effacé ce message-là dans son courriel pour pas que la commissaire à l'éthique puisse savoir parce qu'il voulait pas que la citoyenne, que la commissaire sache qu'il avait pas fait son job. Donc là, mais c'est très grave, là.
Ben oui.
Il a détruit de la preuve. Il a trompé la commissaire, il lui a menti sciemment en sachant qu'il mentait, puis il a entravé son travail pour faire la lumière puis enquêter. Puis comme tu as dit, s'il avait fait ça devant un juge, ce gars-là serait en prison. Là, présentement, ce qu'ils ont fait, ils se sont levés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les députés de la CAQ, ils l'ont blâmé parce que la commissaire a dit qu'il soit réprimandé et sanctionné. Fait qu'ils ont dit « OK, on va le faire ». Ils se sont levés, ils ont dit « On le blâme ». Ils sont restés, puis ils ont dit « On le garde dans notre parti, on le garde dans le caucus. On passe à un autre appel ». C'est écœurant. Je te le dis, là, c'est pas parce que puis le, ce gars-là, en plus, moi, personnellement, c'est sûr que comme candidat qui était contre lui, j'ai rien contre l'individu en passant, là. Mais moi, je me suis fait battre par un gars que s'il avait dit la vérité en campagne électorale, puis il avait dit aux gens de Chauveau qui étaient contre le troisième lien, là, c'est moi qui serais le député de Chauveau aujourd'hui, là. Ce serait pas lui.
Mais,
fait qu'il a été élu en mentant, il a menti à la citoyenne, puis il a menti à la commissaire à l'éthique. Qui va y faire confiance à partir de maintenant, à part la CAQ? Parce que les autres, des mensonges, ça n'a pas l'air d'être.
Mais c'est ça. C'est-tu la CAQ qui a le côté moral un peu trop élastique, ou c'est la position de la CAQ actuellement au Québec? La CAQ ne sont pas parmi les favoris, là, pour remporter les prochaines élections. Quand ils se sont essayés dans Jean Talon, ils étaient persuadés de pouvoir passer dans Jean Talon, puis finalement, ils se sont fait rincer comme pas possible. Et là, ça a comme déstabilisé François Legault, qui a dit « Ah là, faut écouter la population, faut ramener le troisième lien. » C'était comme n'importe quoi. Là, si Sylvain Lévesque démissionne, parce que moi, honnêtement, avoir été François Legault, j'aurais dit, tu sais, peu importe ce qui pourrait m'arriver par la suite, j'aurais dit à Sylvain Lévesque, là, tu sais quoi, ce que tu as fait là, c'est complètement inacceptable, puis tu vas démissionner. Regarde, au pays, il y aura une partielle. Mais la position de la CAQ fait en sorte que s'il y a encore une maudite partielle, ils vont perdre cette partielle-là. Puis c'est ça qu'ils veulent pas.
Mais c'est sûr que c'est pour ça qu'ils gardent Sylvain Lévesque, parce qu'ils ont très peur d'avoir une partielle, parce qu'ils savent que la population va sanctionner leurs mensonges. C'est capoté, là. Fait qu'on descend les mensonges parce qu'on est pris dans nos propres mensonges, puis là, on veut pas faire face à la population, puis on a peur d'être sanctionné par les électeurs. C'est un détournement de la démocratie, c'est pas compliqué. Et là, je sais pas comment ils vont faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais si vous êtes un parent qui nous écoutez, là, vous dites plus jamais à vos enfants qu'il faut pas mentir si vous votez pour la CAQ, parce que vous votez pour un parti qui encourage le mensonge à temps plein, là. C'est devenu une honte, là. C'est, je veux dire, on dit ça à des enfants à partir de 3-4 ans, là, on leur dit qu'il faut pas mentir, là. Et là, on élit des politiciens, là, qui sont en train de diriger ça en système, puis que même quand ils sont pognés, parce que là, Sylvain Lévesque a avoué qu'il avait menti, il a avoué qu'il avait détruit de la preuve, là, puis il essaie de s'excuser un matin sur sa page Facebook, là, mais fait qu'il l'avoue, là, c'est pas une rumeur, puis c'est pas des allégations, là. C'est confirmé.
Mais comment est-ce qu'en 2024, mettons, un politicien, peu importe qui il est, peut penser que ça sera pas découvert? On dirait que, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus ferré pour le savoir. Toujours quelque chose qui sort. Tout le monde veut se planter entre eux.
Ouais,
qu'il y a une culture du mensonge qui soit développée pour penser qu'ils sont au-dessus de tout et qu'ils ne seront pas poignés dans l'humanité. C'est une très bonne question. Je peux pas croire que... Écoute, là, c'est un mauvais épisode de House of Cards. Là. Pour ceux qui ont suivi la série sur Netflix, là, prête à n'importe quoi pour essayer de t'abrier politiquement. Puis là, la CAQ qui passe l'éponge puis qui dit « Ah non, il n'y a pas de problème, mon citoyen, on va te garder avec nous autres, tu vas recevoir encore ton 130 000 piastres par année, puis tu vas rester avec nous autres au moins jusqu'aux élections, puis on va encore essayer de mentir au monde en 2026, te faire réélire une autre fois. » C'est un moment donné... Tu sais, moi, je me bats en politique mes idées, là, mais on est rendu loin, loin, loin des idées, là. C'est devenu des... pour les mauvaises raisons. Puis peu importe votre opinion politique, là, vous ne pouvez pas sanctionner ça, puis vous ne pouvez pas accepter ça. La CAQ, aujourd'hui, là, c'est un déshonneur. Quand t'es rendu que tu défends ça, écoute, le même des libéraux de Jean Charest contre qui on a gueulé, puis on disait qu'il y avait des histoires de corruption, puis ça, jamais Jean Charest aurait gardé un député qui aurait porté entrave au travail de la commissaire à l'éthique, qui aurait trompé la commissaire à l'éthique, puis qui aurait fait disparaître de la preuve. Jamais, jamais, jamais ça aurait passé dans un gouvernement de Jean Charest. Puis j'ai peur aujourd'hui, là, qu'on soit parmi les rares au Québec qui sont au courant de ce qui s'est passé et qui dénoncent ça.
Ouais. Avec ce qui est arrivé, puis Sylvain Lévesque qui avoue avoir menti puis détruit de la preuve, on peut dire que c'est un crosseur. Je me pose la question, Éric, s'il s'est fait pogner là, y a-tu des choses qu'on sait pas, qui auraient peut-être faites par le passé puis qu'on va découvrir plus tard? Tu sais, François Legault, là, en le gardant dans l'équipe, là, c'est un bâton de marde, là.
C'est une très, très bonne question que tu poses, parce que la commissaire à l'éthique, d'ailleurs, dans son rapport, écoute, elle a un rapport de 50 pages là-dessus, là. Elle se pose la question, puis elle se demande, y a-tu d'autres choses? Parce qu'à partir du moment où il a menti là-dessus, ça, elle croit plus grand-chose de ce qu'il a dit, là. Tout son témoignage, elle se demande, c'est tout, il m'a tout monté ça, puis c'est toute une fabrication de mensonges collés un à côté de l'autre, là. Puis il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas parlé, qui est aussi scandaleux dans cette affaire-là. C'est qu'ils ont, eux autres, ils ont un logiciel qui s'appelle Coalice, OK? C'est une affaire de la Coalition Avenir Québec. C'est toute la liste de tous les électeurs. Donc, vous êtes tous dans ce Coalice-là, OK?
Êtes-vous un sympathisant dans le comté? Est-ce que vous êtes un adversaire, oui, ou est-ce que vous êtes non pointé?
C'est ça. Puis, avez-vous déjà donné de l'argent à CAQ? Puis, quand on est allé au porte-à-porte chez vous, qu'est-ce que vous avez répondu? Puis, avez-vous déjà répondu à un de nos sondages? Puis, avez-vous déjà... Il y a tout, là. Et là, quand la personne va pour avoir un service comme citoyen, comme payeur de taxes, il y a un filtre dans l'ordinateur de l'attaché politique qui vous accueille pour qu'elle sache qu'est-ce que vous êtes politiquement, puis si vous avez déjà donné de l'argent à la CAQ.
Fait que si tu as déjà donné pour la CAQ, ça se peut que ton dossier soit au-dessus de la pile, puis si tu es un adversaire de la CAQ, ça se peut que ton dossier soit en dessous de la pile.
Fait qu'ils ont raffiné les techniques. Il y a une époque où on accusait les libéraux de Jean Charest de donner des contrats d'asphalt en fonction des entreprises qui avaient contribué à la caisse électorale du Parti libéral. Aujourd'hui, c'est tellement raffiné que c'est possiblement rendu dans les ordinateurs de chaque adjoint de comté de la CAQ quand ils vont rentrer dans le bureau pour savoir à qui ils ont affaire. Puis la commissaire à l'éthique, évidemment, elle dénonce ça, puis elle dit à la CAQ là, qu'il ne faut plus qu'il y ait d'employés politiques payés par vos taxes qui travaillent à partir de ce logiciel-là. Mais juste le fait qu'ils ont découvert ça en faisant cette enquête-là. Puis encore une fois, ils sont tombés là-dessus par hasard. Là. La commissaire à l'éthique, elle cherchait pas ça pantoute. Là. Ouais. Elle est tombée là-dessus parce qu'elle enquêtait sur le email de 100$ pour le cocktail d'Éric Girard. Là.
Mais il y a vraiment quelque chose qui... puis vous l'avez effleuré un peu, les gars. Mais le fait de se dire, ah, on va regarder ça, là. On va peser le pour et le contre. Puis au sein de la CAQ, on continue en ce sens pour quelque chose qui a été reconnu même par la personne fautive. Au lieu de se dire, hé, notre image va tellement être entachée, on veut tellement que ça soit propre au sein du parti pour les électeurs qu'on peut pas continuer comme ça. Dans la priorité, ou en fait dans ce qui était pire que l'autre, ils ont quand même choisi de conserver la personne.
Oui, c'est
la politique a changé
beaucoup.
L'amitié
avant l'honnêteté. Là.
Ben, je ne sais pas si c'est ça ou encore le besoin là, foncier de garder une personne ouais. dans ce comté-là. Mais,
dans le cas
toi,
de Sylvain Lévesque.
Là, tu commentes, ouais. là, Éric, tu commentes. Faudrait pas que tu aies quelque chose de croche, toi aussi. Là, parce ouais. que j'ai l'impression qu'il y a tellement
écoute,
de gens.
J'ai payé un compte de taxe en retard, moi, puis ils en ont parlé pendant une semaine.
C'est vrai.
T'imagines?
J'espère que tu le payes.
J'ai payé
là.
Un compte de taxe en retard. Puis il y a des milliers de Québécois qui n'ont pas voté pour moi à cause de ça. Ce gars-là a menti, a trompé, puis ce gars-là va rester dans la CAQ, là.
Oui, alors qu'il n'est pas un élément très important de la CAQ. Là. La dernière fois que j'avais entendu parler de Sylvain Lévesque avant aujourd'hui, c'était quand il s'était marié avec sa femme. Ça avait passé dans le journal. Parce que sinon, les gestes de Sylvain Lévesque dans sa circonscription, on n'entend jamais parler.
Il y a des gens qui disent qu'il est présent, par exemple. On peut pas
oui, mais je veux
ça.
Dire, il est présent. Il faut que ce soit. Ça va être quoi son bilan après 4 ans?
Mais de toute manière,
ans,
avec ce qui s'est passé, la confiance n'est plus là.
Ben non, mais si tu étais François Legault, tu le crises dehors. Le problème, c'est qu'actuellement, la CAQ est en mauvaise position. Ils vont mettre qui à la place?
Mais moi, ça me fait peur parce que quand c'est rendu que le parti évalue, que c'est moins pire ça. Que d'être propre.
Ça en dit beaucoup sur le parti.
Puis mettez-vous à la place là, des électeurs de Chauveau, parce que moi, c'est pour eux aujourd'hui que j'ai beaucoup de sympathie. Là. Quand tu sais que ton député, non seulement il ne fait pas son job, mais il est prêt à mentir pour ne pas faire son job et pour ne pas te représenter dignement. Puis qu'en plus, tu arrives là, puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on veut savoir si tu es caquiste et si tu as donné de l'argent. Il y a quelque chose qui est capoté. Là. Il n'y a plus personne qui va vouloir aller au bureau de député. Là. Le service du bureau de député, il n'y a plus personne qui va vouloir utiliser ça dans Chauveau dans les deux prochaines années jusqu'aux prochaines élections. Là. On sait que ce gars-là, il n'est pas là pour les bonnes raisons puis qu'il va nous mentir, peu importe ce qu'il va nous dire.
Ouais, il n'y a plus de crédibilité du tout. Fait que ça va être comme Éric Kerr. Il va se cacher jusqu'aux prochaines élections puis il va empocher son salaire chaque semaine sans gêne, mon cher Éric. As-tu des projets pour cette semaine? Qu'est-ce que tu vas nous sortir?
Ben, pas grand-chose. Je m'en vais, comme je t'ai dit, je m'en vais faire la tournée mon choix. Je m'en vais à un match des Tigres aussi ce soir à Victoriaville. Puis demain, je vais aller au Rempart. Il y a une game au centre de Vidéotron. Ouais. Je vais être là.
Qu'est-ce que ça donne, soir. Hein? Qu'est-ce que ça donne quand t'es à Québec versus quand tu vas faire un tour comme à Drummondville? Là, les gens sont-tu aussi réceptifs? T'sais, à Québec, c'est reconnu. Là, les gens sont un peu plus de droite économique.
Non, à Victoriaville, oui. À Montréal, c'est sûr que ça va. Je vais être aux Alouettes aussi samedi. C'est vrai, c'est le match des Alouettes en samedi. À Montréal, c'est un peu différent. Mais encore, vous seriez surpris. L'affaire qui est différente de quand je faisais de la radio, maintenant que je suis en politique, c'est que même les communautés culturelles, les anglophones me reconnaissent. Tandis que quand j'étais à la radio en français, il n'y avait pas des Anglais, ils ne me connaissaient pas du tout. Là. Mais la politique, là, ils connaissent ça plus que la radio francophone à Québec.
Un gars de droite économique, c'est épouvantable. Salut, Éric Duhaime.
Bonne journée à vous deux. Bye.
Merci, bye-bye. Il est le chef du Parti conservateur du Québec, c'est Éric Duhaime. Non, mais cette histoire-là, Pascal, les infractions au code d'éthique de la Coalition Avenir Québec, là, Pierre Fitzgibbon est passé combien de fois? Il s'est fait blâmer combien de fois? La CAQ l'a toujours gardé, puis regarde ce que ça fait. T'sais. Regarde le bilan de Pierre Fitzgibbon, qui est catastrophique au niveau monétaire. Là, Sylvain Lévesque, qui l'échappe comme pas possible en falsifiant des preuves, en détruisant des preuves pour pas se faire accuser de rien. Il se fait prendre par le commissaire à l'éthique, puis il reste
quand même en poste pour la coalition Avenir Québec, c'est un peu gênant pour François Legault actuellement.
Je me demande pourquoi est-ce qu'on est rendu là, très honnêtement. Là.
Ah, c'est une catastrophe. Puis,
est-ce que c'est quelque chose qu'on lui a demandé de falsifier, puis que si jamais ça sait, ça tombe sur lui? Ouais. Il y a tellement de questions.
Moi, j'essaie pas d'expliquer ça. T'sais, quand on t'a demandé de faire un meurtre, puis tu fais un meurtre, c'est toi quand même le meurtrier.
Ah non, mais c'est parce que je cherche au-delà de ça. Ouais. Je cherche autour.
Je comprends. Tu cherches à comprendre. T'sais, c'est une preuve d'intelligence. Là. J'avais une discussion avec quelqu'un il y a de ça quelques semaines. C'était notre gala au CRTQ. Puis il y a beaucoup d'attachés de presse qui ont étudié en com qui étaient là. Puis il y en avait un, que c'est un ancien employé de la Coalition Avenir Québec, puis il a décidé de quitter par lui-même parce qu'il était juste écœuré de voir à quel point il était mauvais. Il dit, tu sais, Yann, j'étais plus capable. Chaque jour, je voyais des affaires qu'on ne devrait pas faire, qui sont des affaires qui sont de base, là, qu'on sait qu'on ne doit pas faire. Puis t'avais un ministre qui sortait, puis il faisait exactement ce qu'on lui avait dit de ne pas faire.
Tu sais, dans le ratio là, politicien de carrière versus politicien vedette dont on parle souvent, tu sais, des politiciens de carrière... Moi, je m'oppose pas immédiatement à ça, parce que c'est des gens qui connaissent la structure, qui ont étudié en sciences politiques, qui comprennent les rouages, qui comprennent l'administration. Mais j'ai toujours dit que ça prend aussi un mélange de politiciens. Vedette, entre parenthèses, je parle pas de la face ou du constat ou ce que tu as fait, mais en termes de CV, tu arrives, mettons, tu as travaillé en santé pendant plusieurs années, si tu arrives au sein du gouvernement, si tu as travaillé sur le plancher des vaches, tu as quand même un apport supplémentaire. Puis pour moi, ça devrait se faire dans un genre de mélange. Je sais pas le prorata, mais tu comprends mon point. Sauf que là, est-ce qu'on s'est ramassé au sein de la CAQ avec plus de candidats vedettes versus de candidats de politique de carrière qui comprennent vraiment les rouages, qui comprennent comment ça fonctionne pour faire arriver un projet de loi ou pour mettre en branle des choses qui sont concrètement intéressantes, puis on se ramasse avec « on a promis telle affaire, on n'est pas capable de les faire arriver, faut changer de cap, puis il faut redorer notre image », en plus dans un contexte politique où ce qui est d'abord et avant tout primé, c'est de nier jusqu'à temps que les faits soient devant nous, puis après ça, on s'excuse, puis... Je sais pas pourquoi, nous autres, on pardonne ça. Mais il y a tellement de superficialité en politique que je sais pas comment est-ce qu'on s'est rendu là. Je trouve ça me pue beaucoup au nez.
Ouais, c'est un jeu d'échecs, là. Mais de voir, t'sais, de discuter avec cet individu-là qui me dit, t'sais, Yann, je l'ai quitté par moi-même parce que on est vraiment mauvais et on fait mal les choses. Mais encore une fois ce matin, on le voit que du côté de François Legault. Pour ce qui est de l'éthique, là, c'est très, très, très élastique. Puis si ça peut favoriser son parti, ben, il est capable de laisser passer un crosseur jusqu'aux prochaines élections. Midi 49, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Puis si le député Sylvain Lévesque veut se défendre de ce qu'il a fait concernant son infraction au code d'éthique, toujours le bienvenu. Pas trop comment ça va virer, mais c'est pas quelqu'un que j'aime, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Puis au niveau de son travail, visiblement, ça semble être extrêmement merdique.
Marceau le midi. Vous lui demandez qu'il lise ses courriels puis qu'il fasse ses concours, s'il vous plaît. La direction vous remercie. Marceau le midi.
Notre chum Jeff Fortin, qui est en studio, doit se déplacer dans les prochaines minutes pour aller faire la fameuse rencontre avec Geneviève Guilbeault, qui va vous parler des audits de performance du RTC.
En plein ça.
Ah, tu dois être excité.
C'est de toutes les sociétés de transport. Hey, je suis énervé. Ouais. Moi, il y a deux choses qui m'ont énervé cette semaine. J'ai fait une émission spéciale sur les élections américaines.
Oui.
J'ai adoré mon expérience avec Farnell et Jacinthe, puis c'était comme un rêve de petit cul.
T'étais combien d'heures en nombre?
7 heures.
Puis la voix, comment ça allait après?
Ça allait super bien, honnêtement.
T'as pas perdu la voix?
Non.
T'es un tough.
Ouais, j'étais un tough de la voix.
Moi, j'existe, puis je parle la mienne. Ouais, on a un problème.
Mais c'est parce qu'il s'est bourré de suppositoires avant l'émission.
Ah, non, pas du tout. Je me suis jamais mis de suppositoires.
Non?
Ah non, hey,
oui, mais l'année, c'était pas dans la boîte.
Oublie ça, moi, aller me mettre de quoi.
Je trouve pas à nu dans la boîte.
Non, c'est ça, moi, aller me mettre de quoi, là, c'est impossible.
C'est un sketch.
OK, fait, félicitations d'avoir fait cette belle soirée électorale-là.
Mais t'es fébrile de cette rencontre.
Hein, ouais. Mais, hein.
Parce que tu t'y connais, parce que t'as travaillé.
Exactement, j'ai travaillé 10 ans au RTC. Fait que je veux pas, à un moment donné, tu développes des intérêts puis une certaine passion. Puis j'ai hâte à cette rencontre-là parce que...
Il y a une passion pour les chiffres du RTC.
Ouais, c'est fou, hein?
Arrête de rire des gens qui aiment des affaires.
Arrête de rire des gens qui ont des passions de comptable.
Toi, t'aimes les passions du genre ta bobette sur ton divan avec tes Cheetos puis ton PlayStation.
Ah, il y a plus que ça.
On t'écœure pas.
Là, OK.
Mais moi, j'aime lire des rapports. J'aime les analyser. J'aime les colonnes de chiffres.
Ouais, je comprends.
Ça te ferait du bien une petite colonne de chiffres une fois dans un
an. C'est ça, bref. Mais tout ça pour dire aussi, c'est parce que je suis un crack de politique. Ce matin, à Red, je me posais la question, y a-tu déjà un moment de politique qui vous a fait pleurer? T'sais. Puis moi, sans faire pleurer, Moi, c'est l'élection de Régis Labombe, mon municipal en 2007.
Ça t'a fait pleurer.
Ça m'a pas fait pleurer, mais j'étais content parce que je trouvais que c'était le seul qui pouvait sauver nos fêtes du 400e. Puis j'aime tellement Québec.
Moi, c'était après 2 ans que je pleurais.
Ouais, là, après ça, on peut parler du bilan. Les 4 premières années, c'est pas pire. Après ça, c'était plus difficile.
Mais c'était pas le candidat qui a fait ce qui était supposé de
non,
de
non,
faire.
Non, non, non.
Il était capable dans les premières années, par exemple.
Ouais, oui. T'as-tu des cues par rapport à ce qu'on va entendre de la part de Geneviève Guilbeault concernant les audits de performance du RTC?
Bien, clairement, il faut retenir que quand Maude Mercier-Larouche a ouvert la bouche lorsqu'on a annoncé la taxe à l'immatriculation et qu'elle a dit au RTC, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de revenus. On va avec cet audit-là de 8 mois qui est fait de façon très professionnelle par une firme reconnue, Grant & Thornton. On va apprendre que les sociétés de transport peuvent économiser au moins tous ensemble pas loin de 400 millions de dollars. Donc, juste en rebrassant les cartes à l'interne, pour l'RTC, ça voudrait dire au moins 10 % de son budget, donc un 28 millions de dollars qui pourrait être économisé au RTC en optimisant le service.
Ouais, on pourrait avoir notre argent qui va nous charger de plus sur la taxe d'immatriculation.
Parce que la taxe à l'immatriculation, c'est 18 millions de plus pour l'RTC, mais si j'en économise 28, bien, gagnons ça, le 18 est là-dedans.
Mais connaissant le maire Marchand, en sachant que le RTC peut économiser presque 30 millions de dollars s'il se force un peu, ben, il n'appliquera pas la taxe supplémentaire sur les droits d'immatriculation. Le connaissant. Il n'est pas avide d'argent des contribuables, c'est pas son genre.
Non, il va l'appliquer parce que sûrement qu'il y aura encore le discours de faut développer. Mais dans ces économies-là, ça n'inclurait pas, selon mes sources, ça n'inclurait pas les économies aussi qu'on peut faire si on diminue la machine du RTC, donc si on diminue l'administration, si on s'est vraiment concentré sur le service, c'est combien d'autobus que je sors, combien j'ai de passagers, combien si je veux augmenter mon achalandage, j'ai besoin de combien de chauffeurs, etc. Puis c'est là-dessus qu'on pourrait venir économiser 28 millions de dollars, donc sur l'optimisation du service. Puis là, on ne s'est pas penché sur la machine administrative. Je le rappelle, le RTC, c'est 17 % de budget qui va à l'administration. Winnipeg, une ville semblable comme Québec, c'est 8 % Fait qu'il y a un 9 % additionnel qui pourrait être aller chercher là.
OK. Franchement intéressant. Fait que tu t'en vas là, tu vas avoir des extraits pour le retour,
j'imagine. Bien sûr. Puis après ça, je vais aller à la conférence de presse de Claude Villeneuve et de Patrick Paquette. Le maire a décidé de ne pas sortir aujourd'hui. Assurément.
Comment est-ce que tu veux qu'on soit pas de mauvaise foi si jamais nous le sommes, de penser que c'est parce qu'il veut pas commenter
ça? Mais c'est un maire qui est courageux. Ça fait 2 élections qu'il va faire sur le tramway. C'est un gars courageux.
Ouais, il a le courage de taxer. Tu sais, moi, quand j'entends ça...
Là. Es-tu mauvaise foi d'avoir ça en tête en premier? Ou il y a vraiment une bonne raison? Là, de pas
non, ben moi, je pense qu'il veut prendre le temps d'analyser comme il faut. On m'avait dit hier, quand j'ai communiqué avec le cabinet du maire, que le maire ferait une sortie aujourd'hui. Ce matin, on s'est rétracté. On a dit qu'il n'y aurait pas de sortie aujourd'hui. Faut nécessairement qu'il se trouve des lignes de communication parce que ça va faire mal. Là. Ça va faire mal à son image, cette taxe-là de 60 $ mis avant des audits qui vont venir dire « Hey, savez-vous quoi, au RTC, on peut économiser au moins 30 millions de dollars. »
Ça va juste donner une autre leçon. T'sais, les Américains et les médias québécois ont eu une leçon là, avec l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire « Fuck you, l'élite ». Ben, pour ce qui est de Bruno Marchand, ça va donner un exemple à tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes là pour le contribuable moyen, on va vous laisser là. Si on sent que vous êtes là pour vos propres idées à vous, pour votre idéologie.
Exactement.
Peu importe l'idéologie que vous avez, là, on vous suivra pas puis on va vous sacrer dehors.
Mais j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu penses que les gens suivraient, mettons, un politicien qui est honnête en disant la situation est un peu catastrophique côté finance et tout, ou par l'avou de ce constat-là, les gens feraient comme, ben c'est un échec, fait qu'aux prochaines élections, ça reste un... Et où il irait plus avec l'honnêteté? Moi, je doute. Je suis divisé.
Bien, je vais répondre à ta question avec « faudrait voir des efforts de réduction de dépenses ».
Exact.
Tu sais, je regardais le dernier budget de la Ville de Québec, c'est une augmentation des dépenses de 7,7 %. C'est beaucoup au-delà de l'inflation. Fait qu'après ça, quand on vient me rajouter une taxe, je me dis « ouais, tu l'as fait tout ton effort ». Tu sais, au niveau du RTC, c'est la même chose. Tu sais, on donne une taxe à l'immatriculation, mais le budget du RTC a augmenté de 28 millions de dollars. Mais il y a moins de passagers qu'en 2019.
Exact.
Puis le budget est à peu près au-dessus de 50 millions de dollars additionnels. professionnel. Fait que c'est tu dis pourquoi?
Ses promesses d'avant élection sont pas ses réalisations. Il nous a menti mm-hmm. pour se faire élire. Une fois au pouvoir, il a fait le contraire de ce qu'on lui demandait. Tout ce qu'on aime, en majorité, il semble le détester. Puis il nous dit « Ouais, mais c'est pas ça. Oui, mais on a pas assez d'argent, donc on va aller en piger encore plus dans vos poches. » Puis, tu sais, on se fie à ses anciennes carrières. Ouais. Donc, nous autres, on le connaissait dans les médias parce qu'il y avait des anciennes carrières. Travailler au centre de prévention du suicide.
Il a travaillé Centraide.
Il a travaillé pour Centraide aussi. Ça a toujours été un quêteux. Puis ce qu'il fait, là, à Ville de Québec, c'est un quêteux. Il fait ses affaires, puis il quête. Il quête au gouvernement du Québec, puis il s'est tout fait retirer. Là. Pour ce qui est du tramway, mm-hmm. il dit qu'il va faire une autre élection sur le tramway. Mais tu sais, j'en parlais avec quelqu'un qui... Non, je ne vais pas le dire. Mais qui m'a dit...
Agace.
Tu sais, Yann, je pense qu'à toi, je te l'ai même pas dit.
Ben oui.
Je te l'ai dit, hein?
Non. Bon?
J'ai parlé vendredi, je te l'ai dit? Non.
Ah oui. Ah bon. Ben oui.
Ben, cette personne-là, qu'on va peut-être entendre parler dans quelques mois, a dit il s'est fait retirer son train jouet comme un enfant
oui.
qui n'avait pas bien agi par la coalition Avenir Québec.
Est-ce qu'on l'aurait exactement. Retiré à n'importe qui était en place à la mairie de Québec parce que ça traînait?
Ben, ça dépend
t'aurais
toujours.
T'aurais pas fait ça à la bombe.
Non.
Il se serait fâché, puis ça, il aurait gagné son point.
Moi, ouais, ben c'est parce que tu n'aurais pas fait ça à la bombe non plus, parce que la bombe aurait été assez stratégique pour travailler avec la CAQ en arrière-plan. Ouais. Là, Bruno Marchand ne travaillait pas avec la CAQ, puis en plus, il mettait à l'avant-plan.
Ouais. C'est un entêté. Tu lui poses une question, il te répond par une autre question.
Mais de toute façon, moi, je retiens un très bon commentaire de notre chroniqueur Jacinthe Varel sur Bruno Marchand. Quand tu es maire d'une ville, tu peux pas être maire de juste une idéologie.
Exactement.
Et c'est son problème.
Oui, puis il va payer le prix aux prochaines élections, j'en suis persuadé. Hey, rapidement, parce que je sais qu'il faut que je te laisse aller. Là, je vois que tu reviens de faire ton jogging. Je pensais que tu avais caché quelqu'un dans le coffre de ton char.
Non,
finalement, tu as juste fait des marches.
Je suis pas encore là. Ouais, je suis pas encore là. J'ai Roger Ferland dans nos chroniqueurs, fait que je veux pas me rendre là.
C'est ça, le Canadien ce soir qui affronte les Devils du New Jersey. Tu t'attends-tu à une victoire ou à peu près à l'image de ce qu'on a connu des derniers matchs?
Ben, le Canadien gagne quand même assez souvent au New Jersey, étonnamment. Ouais. Cependant, les Devils ont un très bon début de saison, de bons jeunes joueurs qui viennent à mettre
5 défaites. Ouais.
Nico Hischier, Jack Hughes, Luke Hughes à la défense fait très bien le jeune. Fait que tu sais, je serais porté à te dire une petite victoire des Devils 4-2, ça sera pas le match le plus enlevant.
C'est-tu un festival de l'improvisation? J'entendais une chronique de Michel Bergeron là, qui mentionnait qu'on voit avec Martin Saint-Louis, ça semble être beaucoup d'improvisation. On y va au jour le jour plutôt que de construire sur des semaines, plutôt que de construire sur des mois.
Oui, là, Martin Saint-Louis fait l'erreur que plusieurs entraîneurs font lorsqu'on sent la soupe chaude, c'est-à-dire on essaye 56 combinaisons de trios puis de paires de défenseurs, puis ça n'a jamais fonctionné. Ce qui fonctionne, c'est la stabilité. Je comprends pas pourquoi Slafkovský n'est plus avec Suzuki et Caulfield. Ça allait très bien l'an passé, les trois ensemble.
Niwa, qui était sur le quatrième trio, monte sur le premier ou le deuxième.
C'est ça. T'es Kirby Dack, qu'on nous vantait comme le futur deuxième centre du Canadien, rendu à l'aile. Fait que, à un moment donné, je trouve qu'on n'a pas laissé assez de temps à ces joueurs-là de s'installer dans leur fameux « chaise », je vais le dire comme ça. Et là, on cède à la panique parce qu'on pensait tellement qu'on serait dans le mix. Moi, je verrais de revenir justement à la base puis de faire en sorte que le Canadien progresse dans ce qu'on avait prévu de faire. Ouais.
À moins que, tu sais, à moins, Jeff, que ça fasse l'affaire de l'organisation, là, que le Canadien gagne pas tant là, pour se représenter au repêchage puis avoir des choix le plus bas possible là, dans le repêchage.
Ouais, mais là,
t'sais, cette génération
feu,
de
là.
Jeunes qui nous entourent en disant « Ouais, mais là, on doit passer. C'est un passage obligé. T'sais, on perd, puis après ça, on se rebâtit. »
Je crois tellement pas à ça.
On n'est-tu pas de cette école-là?
Ben non, mais c'est parce qu'il faut que tu formes des gagnants. T'aurais-tu pour former demandé... des gagnants, faut que tu gagnes.
T'aurais-tu demandé à Guy Lafleur, à Guy... Tu peux-tu relaxer? Là? C'est parce qu'on aimerait ça finir en bas de classement.
Ouais, c'est ça. T'aurais-tu demandé ça à Patrick Roy?
Patrick Roy,
il t'envoie le promener, lui.
Mais tu sais, quand je parle des collègues qui sont plus jeunes, là, début vingtaine, ils me disent non, mais Yann, c'est un passage obligé. Puis là, ils me donnent le nom de plein d'équipes qui ont utilisé cette stratégie-là, mm-hmm. là, d'être dans le bas de classement pour repêcher le plus bas possible.
Ah ouais,
je me dis.
Les Golden Knights de Vegas le font depuis qu'ils sont en Ligue nationale. Hein, ouais. Le passage obligé, ils ont toujours été bons.
Ils sont toujours forts depuis qu'ils sont arrivés.
Ils croient pas bien à ça à Vegas. Ils ont fait le pari contraire pour faire un jeu de mots.
Pour ce qui est de ce soir, 20h15 dans la NFL, les Bengals de Cincinnati affrontent les Ravens de Baltimore. Moi et Pascal, on y va avec les Ravens ce soir.
Non, je vais avec les Bengals.
Ouais, moi, je vais y aller avec les Ravens. Ça va être un bon match. 41-38 en prolongation, le premier match, victoire des Ravens. Il va avoir du point au pied carré.
T'as donc bien l'air convaincu.
Merci,
moi, j'ai
Jeff.
Avec mon cœur. Je mets mon cœur sur la table.
Merci, Jeff, parce que quand je répète la même chose que toi, je considère que je connais un petit peu plus le football américain.
Mais tu ne répètes pas ça, tu as juste dit Ravens. Mais on t'aime.
Ouais. On se parle demain avec Coach Gilbert.
Mais j'avais dit Ravens.
Oui, sans explication.
J'ai hâte de parler à Coach Gilbert demain, voir si lui est encore sur passage obligé.
Ouais.
Mais ça, ça dépend de ce que les gars qui respectent dans le milieu vont dire pour que lui puisse le répéter.
C'est ça.
Oh boy, j'espère qu'Audrey va être prête à faire un chiffre de 7-8 heures demain.
Non,
t'es en train de perdre ta voix, là.
Oui, mais je suis correct, je suis là.
Dis salut, mon nom, c'est Caroline Néron.
Salut, mon nom, c'est Caroline Néron.
Salut, mon nom, c'est Marjo.
Salut, mon nom, c'est Marjo. Mais elle est comme...
Dis salut, mon nom, c'est Éric Lapointe.
Salut, mon nom, c'est Éric Lapointe.
Hey, tu l'as plus!
Coupable.
Ouais, mais je la chante.
Ouais, t'es bonne.
Mais Caroline Néron, faudrait, ça serait comme... Salut, mon nom, c'est Caroline Néron. T'es un peu plus que...
Ouais, mais t'es en train de perdre la voix, là. Ça va être direction sujet en coutu, ça va être direction aller des suppositoires. Merci, bonsoir.
Ben, hier, j'ai plus opté pour un sirop.
Néolaryngobis.
Non, il paraît que c'est une rumeur que
t'as 10% des chances que ça fonctionne parce que tu y crois.
Ouais, ben j'ai cru hier au petit sirop, même s'il paraît que ça, c'est pas super, la petite pastille, un petit quelque chose. J'ai pris du propolis aussi. Ça, là... Ouh, ceux qui le connaissent, là.
Du propolis.
Ouais, c'est vraiment... Moi, j'adore ça, OK? Mais il faut vraiment être fait fort. Toi, tu pourrais pas prendre ça. Propolis, là...
Ouais, c'est de la Coors Light.
Non, c'est raide. Ça goûte le gros pneu, comme si ça avait fait des burns, là, dans un stationnement, là, sur un sapristi de temps.
Ouais.
Puis il faut que tu slacks dans le fond de la gorge, OK? Le propolis, là, c'est la pellicule résineuse protectrice des bourgeons des arbres, où les abeilles vont un peu butiner, puis c'est mélangé avec du miel. Mais ça va aller vraiment t'aider dans le fond de la gorge. C'est juste que quand t'en as sur tes papilles là, gustatives, là, tu prends 2 minutes. Mais c'est vrai que c'est ça.
Oui, pour changer le sujet, on a le plaisir d'avoir...
C'est antimicrobien.
Oui, voilà.
C'est bon pour désinfecter ta bouche aussi.
C'est assez. Martin Bourget, qui est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche, qui est avec nous, il est dans une cache. Salut Martin, comment ça va? Faut pas que je parle fort, il y a du chevreuil autour.
Ça va, vous autres? Non, je peux pas parler fort. Ben, on a une cache isolée, c'est pas trop pire, mais... Que c'est ça, là. Si on se met à tousser, on va se... Rien, tout sauf du propolis dans le fond de la gorge, ça sent bizarre.
Oui. C'est ça.
Toujours ça fonctionne.
C'est là où j'ai déconnecté.
Oui, totalement, moi aussi. C'est que je te suis, je
là,
suis morceau.
Là, t'es dans une cache, t'es au-dessus du sol, t'es à quel endroit présentement?
On est au nord de la Saskatchewan, un endroit qui s'appelle Eland Lake. On est à la chasse aux cerfs de Virginie dans ce coin-ci. C'est un coin qui est réputé pour avoir des très gros cerfs de Virginie. Ils ont aussi du cerf mulet, il y a aussi du wapiti alentour ici, puis de l'orignal en masse. Avec un très, très beau secteur, puis c'est une autre place qu'au Québec. Tu sais, Québec a beaucoup de belles opportunités, une chasse aux cerfs de Virginie, mais ici, c'est un endroit qui est quand même assez prisé, là, l'Alberta, la Saskatchewan, je te dirais.
Ouais, puis jusqu'à maintenant, ça se promène-tu autour de la cache un peu? Avez-vous du choix?
Dans notre cas, la cache qu'on a pognée est plus tranquille, un peu c'est zen, on va te le dire, on a le temps de méditer un peu. Mais les gars, entre autres, nous autres, parce qu'on est avec un groupe de Québécois, Pascal, entre autres, Pascal Levington, qui est propriétaire de quelques pourvoiries au Québec, là, hier, 20-25 chevreuils à l'entour de lui, là, tout trop petit, fait qu'il n'a pas pris de tir. On a Dave qui a pris un tir en début de semaine sur un beau gros 10 pointes, un très beau 10 pointes d'ici. Okay. Sinon, il y a quand même pas mal d'action. Nous autres, on a des coyotes présentement.
Vous avez des coyotes qui se promènent?
Au moment où est-ce qu'on te parle, il y a un coyote sur le bord du bois, direct en face de nous autres.
Pourquoi ils viennent vers vous? Avez-vous mis de l'urine partout? Qu'est-ce qui les attire? C'est-tu vous?
Ben oui, mais en même temps, les coyotes, à longueur de journée, vont se promener pour essayer d'aller chercher les petits rongeurs qui vont traîner ou encore les gélinottes pour se nourrir.
Ouais.
Puis c'est sûr que nous autres, avec l'urine de boc puis l'urine de femelle qui est alentour de nous autres, qu'on a mis pour faire des lignes d'odeur, puis quand on fait du rattling, donc on simule un combat entre deux bocs, ben ils sont assez opportunistes. Hein. Ils se disent, il y a peut-être un des deux chevreuils qui va finir blessé à la fin du combat.
Ah.
Fait que la minute qu'on fait du rattling, il y a des coyotes qui viennent voir à la course
Tu simules ça, c'est-à-dire qu'avec Kate, vous commencez à faire des drôles de cris dans la cache?
Ben, non, Kate est justement à côté de moi. Pogne donc un sac de rattling, puis fais-nous donc un petit peu de rattling. Fais vraiment comme des cornes qui tapent ensemble. Vas-y, va. Vraiment comme deux panaches qui se cognent ensemble. Puis on imite un peu le call que le bug va faire, c'est-à-dire du grunt. Là, je vous dis tout de suite, c'est pas moi qui ai des problèmes de digestion, là. Le bas qui va vraiment grunter comme ça. Quand il court après les femelles, on va l'entendre dans le bois comme un petit cochon, là.
Hey, c'était pareil comme on faisait Martin dans le temps sur Grande Allée.
Avec de la U en fût d'un verre de plastique au Colisée, après ça, sur la Grande Allée, tu sonnais de même, oui.
On était de même un peu. Hey, puis là, t'es rentré dans ta cache à quelle heure, là, matin?
Ah, il faisait noir. Hein. Il était, ben, ici, là, les heures ne sont pas les mêmes. Lever, coucher de soleil, il devait être 6 heures et quelques quand on est rentré dans le cache. Il faisait noir. Là. On était une bonne demi-heure avant le lever du soleil. Okay, puis vous allez... Question de vraiment comme rentrer sans les effaroucher. Là.
Vous allez sortir de le camp?
Ce soir, il va être 7h30 dans ce coin-là. Il va faire noir. Il va faire noir encore là. On attend vraiment que la noirceur soit tombée complètement parce qu'on veut chasser jusqu'à la dernière minute, mais aussi parce qu'on ne veut pas les effaroucher inutilement. Fait, la nuit, ils sont moins stressés un peu, ils nous voient moins. Fait qu'on sort à ce moment-là, question de ne pas les spooker, entre parenthèses. Hein.
Puis qu'est-ce que tu dis à Kate pendant 13 heures? C'est pas les sujets que vous avez. Hein?
Ah, ça peut être assez notoire. Je te dirais que des fois, il y a des conversations. Parce que là, tu as justement 13 heures à passer. Fait qu'à un moment donné, des sujets, t'en inventes. Puis là, c'est là que le chromosome innocent se rend compte. Les chromosomes innocents se rendent compte. Je te dirais qu'il faut faire attention parce qu'on pogne des fous rires qui pourraient être dangereux pour notre chasse. Il faut apprendre à se fermer à la boîte. Là.
Est-ce que vous dormez aussi? Mais avez-vous des tours de guet?
Tour de guet, non, parce que je te dirais c'est pas mal incontrôlable. À un moment donné, on se lève en sursaut tous les deux, puis oh, pédale, ça fait combien de temps qu'on dort? Là, on regarde l'heure, oh, c'est pas pire, un petit 15 minutes. Ben oui, régulièrement. Puis c'est une farce, c'est un inside entre les chasseurs. On s'amuse bien gros à faire des photos le fun pendant que l'autre s'est endormi la tête par en arrière, la gueule grande ouverte en train de ronfler. Là. Ouais. Là, c'est le temps de faire des niaiseries sur vidéo pour les internets.
Mais c'est ça, puis c'est le temps de relaxer aussi, puis de profiter de la nature, puis de profiter du moment. Là. Vous pouvez vous faire des petits repas là-dedans, puis relaxer. OK, puis vous chassez avec quoi? On utilise à peu près les mêmes armes du Québec, là. Les règlements sont à peu près les mêmes.
Ouais. Absolument, tu sais, je veux dire, un chasseur pourrait choisir d'autres armes que ce qu'on a là. Nous autres, on est à la carabine, on est à 300 Winchester Magnum avec un petit X-Bolt de Browning pour le trip. Si quelqu'un pourrait le faire à l'arc ou à l'arbalète encore. Un peu comme au Québec, tu sais, c'est justement c'est une extension des opportunités de chasse. Au Québec, déjà, on peut récolter 2 serres de Virginie. Nous autres, on a 5 enfants. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement prendre une autre opportunité comme l'île d'Anticosti pour aller chercher d'autres viandes. Ou encore, la Saskatchewan est très populaire, l'Alberta est très populaire, le Manitoba aussi commence à être très, très, très populaire. La Colombie-Britannique aussi, parce qu'on peut y trouver justement la serre de Virginie, serre mulet, wapiti, orignal. Fait qu'il y a quand même pas mal de stocks qu'on peut chasser dans les autres provinces pour extensionner ou aller chercher plus de viande pour nourrir la famille.
Okay. Puis, est-ce que c'est compliqué, se procurer un permis de la Saskatchewan? Au Québec, on connaît un peu le principe de se procurer un permis de chasse, là. Mais oui. Là-bas, ça fonctionne comment?
Il y a plusieurs systèmes. Le principal que les Québécois vont utiliser, c'est qu'ils vont contacter un pourvoyeur en Saskatchewan pour voir si, dans un premier temps, est-ce qu'il peut lui vendre directement des tags, donc des permis, parce que souvent, il va avoir un certain lot de permis, dépendamment du type de pourvoyeur. Sinon, dans la majorité des cas, ça fonctionne par tirage au sort. Donc, on va appliquer au tirage au sort, et si on sort au tirage au sort, eh bien là, on va contacter un guide ou encore un pourvoyeur pour lui dire « J'ai gagné au tirage au sort, j'ai le droit de m'acheter un permis chez vous, puis je veux faire affaire avec toi. » Alors là, il va nous charger pour nous recevoir, nous loger, nous guider, mais il faut préalablement s'être inscrit au tirage au sort. Un peu comme au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick fonctionne de la même façon aussi, comme la majorité des provinces. Aux États-Unis aussi, là, quand on chasse le Texas, etc., au préalable, on s'inscrit au tirage au sort parce qu'il y a une gestion de la chasse qui est faite.
OK. Puis tu ramènes la viande comment, Martin? Parce que là, tu es en Saskatchewan, là.
Oui, il y a 2 façons. La majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la faire préparer par un boucher qui sont habitués de les préparer pour le transport aérien. Et on va prendre un bagage supplémentaire dans le retour qui va passer par le hors-norme. Sinon, ben, comme nous autres, on a Pascal Ovington qui est avec nous autres, qui a fait du transport longtemps. Il y a encore des chums qui font du transport dans le coin. Fait qu'on fait préparer la viande ici, on la fait surgeler. Il y a d'autres groupes de Québécois qui passent avec nous après nous autres. Au bout des groupes de Québécois, ben, quelqu'un comme Pascal va contacter un gars de transport qui, en revenant d'une livraison, va ramasser ça sur sa flotte puis va nous leur descendre au Québec.
Okay. Puis vous en profitez pour faire des images aussi pour vos émissions? Là.
Oui. Oui, on est en tournage. Présentement, on est ici vraiment pour être en tournage. Je te dirais... Oui, pour l'opportunité des gros bocs, parce qu'évidemment, il y a des gros chevreuils ici. Tu sais, au Québec, là, 180, 190 livres, t'es vraiment, vraiment, vraiment content. Ici, c'est pas rare là, de pogner du 250, aller voir jusqu'à 300 livres le chevreuil. Là. C'est du gros chevreuil. Mais on est ici particulièrement pour vivre le trip puis expliquer aux Québécois comment s'y prendre step by step pour venir chasser en Saskatchewan sous différents formats, là, d'aller du plus petit budget jusqu'au plus grand budget. Là.
Et puis là, dans une pourvoirie, utilisez-vous les mêmes techniques qu'au Québec? Y a-t-il des salines d'installer? Y a-t-il des pommes qui sont données?
Oui, dépendamment des provinces, il y a des régulations qui sont complètement différentes. Ici, c'est très populaire de nourrir le cerf de Virginie avec de la luzerne. Donc, de la luzerne, des fèves sucrées, et du maïs, évidemment. Sinon, c'est la même chose, hein, c'est le même animal, donc on va faire des lignes d'odeur. On va, le chevreuil, il va utiliser trois glandes qu'il y a sur son corps pour identifier son passage dans une trail. C'est un petit peu comme des boîtes de courriel où est-ce qu'il laisse l'information à savoir qui est là, qui est passé là. Il va se frotter le coin des yeux, ça c'est les glandes préorbitales sur une petite branche dans les airs. Il va aussi gratter au sol puis uriner dans son gratté. Alors les glandes interdigitales entre les sabots vont laisser une odeur puis évidemment l'urine aussi qui va mélanger au travers de la terre noire. Puis il y a les glandes tarsiennes à l'arrière qui va frotter aussi. Il va les frotter ensemble, les deux pattes arrière pour qu'ils s'émanent une odeur de là. Puis ça, c'est son identification. C'est comme un ADN, littéralement. Fait que les chevreuils vont arrêter au poste de grattage d'entre elles. Ils vont sentir la petite branche en l'air. Ils vont sentir le gratter au sol pour identifier qui est passé par là. Puis ils vont, à leur tour, laisser leur odeur là. Fait qu'on rentre dans ce game-là un peu. On rentre dans les trails, on va aller réactiver les grattés ou partir des faux grattages, aller remettre des préorbitages sur les petites branches, faire des lignes d'odeur pour les faire sortir, parce qu'on chasse en milieu agricole, pour les faire sortir dans le champ où est-ce qu'on chasse.
Je t'écoutais, puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention, tu sais, à se demander pourquoi les gens vont là, c'est justement parce que la bête est plus grosse, parce que c'est peu connu ou moins connu, moins fréquenté.
C'est très fréquenté. Le record du monde en termes de grosseur de cerf de Virginie, le Handsome Deer, il vient d'ici. Si vous faites une petite recherche là, sur le record du monde du cerf de Virginie, vous allez voir, c'est Milo Hanson, si je ne me trompe pas. Donc, Hanson Buck. Si vous tapez Hanson Buck, vous allez le trouver. Il y a vraiment même une statue ici coulée en métal du Hanson Buck. Donc, les gens viennent ici surtout pour les records, les gros cerfs de Virginie et pour l'abondance aussi, évidemment.
Yannick, est-ce que tu avais fait le tour de sa cache, toi?
Si j'avais fait le tour
du sujet
de
sa cache
pour l'aider à ramasser des gros bocs.
Ouais.
Non, je m'ai pas demandé ça. Il est capable de le faire ça. Okay.
Mais par rapport au sujet, c'est parce que je trouvais ça intéressant. Il y a quelque chose qui est sorti dans les médias européens. On essaie de revenir encore plus à la base, Martin, que tu décris souvent quand tu es en chronique avec nous. Puis là, ça vient de s'instaurer en gastronomie. Il y a un chef très réputé, Olivier Nasty, qui veut faire tomber ces tabous-là sur la chasse, puis qui veut faire encore plus briller tout ce qui est chasseur, cueilleur dans son entourage, puis il veut rendre dans sa cuisine une importance supplémentaire à cette façon-là de s'approvisionner qui n'est pas par l'industrie agroalimentaire qui est peut-être un petit peu plus connue au niveau de la gastronomie. Est-ce que tu penses que ça va changer avec le courant actuel?
Peut-être en Europe. Ici, il y a des réglementations qui sont très fortes au niveau de la vente de viande de gibier, qui est fortement interdite. Ce serait difficile de penser que le côté de la restauration pourrait s'approvisionner auprès des chasseurs. Par contre, il y a énormément de fermes d'élevage qui élèvent des animaux qui se rapprochent énormément, comme par exemple le cerf rouge est élevé, le wapiti est en cerf d'élevage, en ferme d'élevage, excuse-moi. Donc, on peut avoir des gibiers qui s'y rapprochent. Mais on peut mettre en valeur la gastronomie à la maison avec toutes ces tripeux de bouffe-là, ces tripeux de barbecue-là, et la mettre en valeur, puis justement élever la valeur de la viande. Écoute, moi, là, j'ai le plaisir de dire à peu importe qui me pose la question, mes enfants mangent de la viande sans antibiotiques, entièrement biologique. Puis c'est encore plus vrai quand on regarde des enfants qui ont des problèmes de santé ou encore des problèmes de peau. Tu vas rire, ma fille fait de l'eczéma. Et de la minute que sa mère manque un peu de viande de venaison qu'on lui apporte puis qu'elle retombe sur la viande de bœuf, à cause de l'acidité que ça lui provoque dans l'estomac, elle recommence à faire des crises d'eczéma. Il faut aller reporter de la viande. Donc, de mettre en valeur le côté valeur nutritive intéressante, sans hormones biologiques de la viande, au travers d'efforts culinaires par des grands chefs, ça s'est fait, ça, dans le cas, entre autres, du poisson lion qui est en train d'envahir complètement nos récifs de coraux parce que les aquariophiles ont retiré ça dans la mer. Il y a des chefs australiens qui ont réussi à élever le côté valeur gastronomique du poisson lion. Puis maintenant, on le pêche commercialement pour le manger. Donc, on est en train de régler le problème dans l'océan en même temps. Donc, de mettre en valeur peut-être la viande au travers du côté des grands chefs, comme Steph Moda le fait à Québec. D'ailleurs, oui. Steph Moda, c'est un ambassadeur là-dedans, littéralement. Ça vaut la peine, si vous ne suivez pas, d'aller le suivre sur les internets. Je pense que c'est une avenue qui peut être très intéressante puis qui pourrait changer aussi l'état de santé de bien des familles.
Je vais te poser des questions. Normalement, c'est Pascal Cévé qui pose ces questions-là. Parce qu'elle, c'est une adepte des étoiles Michelin, mais que goûte un chevreuil en Saskatchewan versus le chevreuil du Québec?
Ça goûte pas mal, le chevreuil.
Il n'y a pas de différence dans ce qu'il mange.
Il est un peu plus country?
Parce que T'sais, l'alimentation est pas mal la même. Si on comparait, par exemple, un chevreuil de l'île d'Anticosti avec un chevreuil du continent,
ouais.
Là, on va avoir une différence.
Okay.
On va avoir une différence dans le fait que le goût qui est très gamey, on va dire le goût de venaison d'un cerf de Virginie en plein rut qu'on va abattre au Québec, c'est quand même assez goûteux. Sur l'île d'Anticosti, il est d'emblée beaucoup moins goûteux. Il va se rapprocher beaucoup plus du goût du veau, si on le veut, sur l'île d'Anticosti que sur le continent. En plus, sur l'île d'Anticosti, ben, on peut le chasser en septembre-octobre, au moment où est-ce qu'il n'est pas encore rentré dans le rut. Alors, le facteur hormonal n'a pas encore commencé à changer le goût de sa viande pour le goût très, très, très venaison qu'on connaît. Par contre, quand on vient comme ici, Saskatchewan, Alberta, son régime alimentaire est pas mal le même. Les périodes de rut sont pas mal les mêmes, donc le goût va être le même.
OK. Et ça peut coûter combien un trip dans l'Ouest pour aller faire de la chasse comme tu le fais?
On va se dire, on va partir par exemple d'une personne qui vient ici de manière autonome, qui va se rendre sur un territoire où est-ce que quelqu'un va lui donner accès à son territoire dans les environs de 4 000 on va dire, par exemple. Puis on va aller jusqu'à des gros plans américains, dans des lodges avec des chevreuils records. Là, on peut aller dans les 12 000, 15 000, voire même 20 000 pour aller chercher des chevreuils de très grande classe. Là.
Hey. OK, quand même. Martin, pour vous suivre sur les internets, on vous trouve comment?
La meilleure place, c'est le acpnation.com, évidemment. Le site web rassemble absolument tout ce qu'on fait. Sinon, au travers de Facebook, vous allez nous trouver. Là, présentement, on est ici et on fait des... Comment ça s'appelle ça? Des stories, chérie?
Des reels.
Des reels. Je ne suis pas bon là-dedans. On fait
des
plein
petits
de
vidéos,
reels
ouais.
Pour vous expliquer ce qu'on fait.
Je l'ai toujours dit avec Kate, là, Martin, tu joues au-dessus de ta ligue.
Sans elle, je suis sous la ligue.
Exact. Salut!
Hey, salut gang.
Bye. L'excellent salut. Martin Bourget, qui est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche, avec qui on aime jaser chaque semaine. Quel beau trip, pareil. Hein?
Ah, ça, le fun. Puis en plus, moi, c'est ce que j'aime. Il démocratise tout ça. Il nous l'explique bien, il nous le vulgarise. Son terre à terre. Moi, quand il y a des auditeurs qui nous écrivent au 88-971-1021, comme ils nous écrivent du genre, je suis zéro chasseuse, puis Martin fait partie de ma chronique préférée. Je pense que ça résume un peu ce qu'il est.
Ben oui, puis c'est vraiment une belle gang, cette gang-là. C'est à suivre sur les internets. Puis je te pose une question comme ça, parce que la question, je la trouvais hyper pertinente. Puis on pourrait peut-être la poser aux auditeurs au 418-971-1021. Seriez-vous capable d'être avec votre conjoint, votre conjointe, dans une cache pendant une semaine, 13 heures?
C'est bon.
13 heures en ligne? Auriez-vous des sujets pendant 13 heures?
Toi, je sais que la réponse est non, là.
Ben moi, je parle pas pendant 13
heures. C'est ça, toi, tu t'éteins à un moment
donné. Ça me prend quelqu'un qui peut m'entertainer une fois de temps en temps, parce que dans ma vie normale, je parle très peu.
Je pourrais apporter, je pourrais prêter à ta blonde, si, mettons, ça va vous arriver, là, peu importe les circonstances.
Ouais.
C'est une boîte, OK? Puis ça commence à être commercialisé pas mal, là. C'est une boîte dans laquelle il y a des suggestions de questions. Des fois, elles sont divisées. Puis la boîte peut être une thématique différente, entre amis, en couple, pour des fréquentations. Tu sais, il y a un genre de maxime, là. Qui joue tout le temps au Uno, là.
Oui.
Puis qui a fait le tour. Puis ça marche pas, clairement.
Ouais,
ça marche pas.
Faudrait peut-être les inviter au restaurant, là, plutôt que les inviter chez eux à jouer au Uno.
En partant, là, avec un genre de eau pétillante dégazée, là.
Oui, avec la couverte qui est sur le bord du divan.
Sale et jamais lavée.
Avec le Netflix qui est allumé.
Oui, pour être prêt à se rapprocher gentiment.
Mais avec la vaseline. Non, ça, c'est trop.
Non, trop. Surtout des images qui viennent avec. Mais ces petites boîtes-là sont le fun, là. Ils sont par catégorie. Mettons, tu prends la coupe, là. T'as réflexion, t'as rapprochement, mais on parle pas sexuel.
T'achètes ça où? Je passe dans 3 000, ils ont tout ça?
Ah, c'est sûr qu'il y a ça.
Ouais.
Marc Nadeau a ça. En plus, c'est son Boxing Day. Garochez-vous là-dessus.
C'est ça. Fait que là, c'est un jeu de société, ça coûte à peu près combien?
20$.
20$.
Mais mettons, j'y vais dans la moyenne. Il y en a 15, il y en a 20.
Puis t'as plein de sujets là-dedans, jasés.
Ouais. On pourrait en créer une, toi et moi?
Non.
Une boîte thématique?
Non.
De questions et de réflexions?
Non.
Hey, je pense qu'il y a du monde qui pourrait être intéressé.
Non, c'est assez.
On est tellement pas pareil.
Ouais.
Le yin et le yang, bien divisé par une ligne de feu.
Moi, je suis plus le yan. Hein?
Le yin et le yang. Tu vois, on a déjà une commercialisation intéressante.
OK. C'est 20$, OK. Mais je trouve ça tough de me dire que je pourrais passer avec un autre être humain 13 heures en ligne dans une cache. Eux autres, c'est leur job, puis je veux dire, c'est une passion qu'ils ont. Là.
Oh, mais il a dit qu'à un moment donné, il
c'est
verrait un peu foufou, puis il riait, puis il disait n'importe quoi.
Ben oui, c'est clair.
T'as des choses autour, c'est sûr que tu ris, il y a quelque chose à dire.
Non, mais t'es peu. Il y a une différence. Là. Moi, je suis capable de passer 13 heures en ligne sur la plage avec ma blonde dans le sud sans aucun problème.
Okay.
Je peux jaser, je vois des affaires, et des affaires qui bougent. Mais quand t'es dans le bois, t'es entouré d'arbres, dans une cache, puis t'attends 13 heures.
Ta tête, c'est pas assez?
crif, non.
Non? Dans les tunnels, où est-ce que tu peux aller, quelque chose qui n'a pas été réglé.
Ouais, ouais, mais là,
parler des rêves, parler d'amour.
Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau...
T'as beaucoup de choses à dire.
T'as beaucoup de choses à dire.
Oui.
Mais mettons que t'es un vieux couple. Mettons que t'es un couple de 15 ans, 20 ans, 30 ans.
Ouais.
Tu te connais pas pire. Là. Puis les références, les souvenirs, c'est à peu près les mêmes. Fait que ça prend ce jeu-là. Je trouve ça intéressant, moi. Un excellent cadeau à se faire pendant le temps des fêtes.
Tu pourrais te l'apporter, Jean?
Non, ça va.
Ben oui. Je vais te poser des questions. Tu vas répondre. Ça va te faire du bien en tête. Tu vas pouvoir les ramener avec ta blonde.
Non.
Je pourrais te donner ça,
non.
Mais pour ta blonde.
Je suis pas un adepte de films d'horreur.
J'allais dire son prénom. Je sais pas si tu le dis jamais. Fait que si tu nous écoutes, écris-moi. Je vais t'envoyer des liens. Je vais te l'acheter de films d'horreur.
Mais elle est capable de jaser. C'est juste 13 heures en ligne avec un de tes collègues de travail, mettons, avec qui tu vas chasser. 13 heures, c'est long.
Pas. Moi, je pense que...
Je pense que je préférais y aller de ça.
J'aimerais ça l'essayer. Tu sais, il y a des téléréalités de couple. Là. Je ferais jamais ça. Je n'irais pas dans cette téléréalité-là, tu comprends?
Oui.
Mais où qui te challenge là, à un point où puis il faut que tu fasses une équipe hors pair. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la structure de ton couple doit être basée sur le fait que tu es capable de communiquer et d'avoir quelque chose à dire à chaque fois?
J'ai des chums en couple là, que s'ils restent trop longtemps dans la maison la fin de semaine, la fois à point.
Ils étouffent?
Oui.
Mais honnêtement, moi, je pense que l'amour et le bien-être avec quelqu'un se résume aussi par les silences qui sont confortables. Quand tu es capable d'être confortable avec quelqu'un dans le silence puis que c'est pas bizarre puis que tu es bien, c'est pas ça aussi un peu l'amour, le confort? De pas être toujours obligé de parler puis d'être bien,
ouais.
Pas sentir de malaise.
C'est une bonne question. Vincent qui dit « Salut, depuis maintenant
Salut,
deux ans, moi et ma blonde, on a deux caches sur le même territoire. »
Mais non!
Oui.
Mais qui était tanné de qui, Vincent?
Ah, c'est pas une question d'être tanné. Moi, je trouve ça plus intéressant d'être séparé. Mettons, tu le fais une journée, là, 13 heures. Le lendemain, t'es séparé. L'autre journée d'après, t'es 13 heures avec ta conjointe. Le lendemain, t'es séparé. C'est deux caches.
Tu mets du piquant de cette manière-là?
Non, mais t'as peut-être des choses à raconter. Ou tu penses des fois à des affaires que tu penserais pas si t'étais tout le temps en sa compagnie.
Ah, ça fait du bien tout seul, oui, ça, c'est sûr.
Ben oui.
Penses-tu vraiment qu'il se passe rien dans la cache? Yannick, on est en train de te dire que peut-être que la cache est moins silencieuse que tu le pensais.
Roger qui dit « Jamais pu passer 4 heures dans une petite cabane au Poisson des Chenaux, Saint-Anne, sans toucher ma conjointe. » Ah, ben là, Roger, c'est un
Mais pourquoi
pervers.
Roger nous dit ça?
C'est un pervers.
OK.
C'est clair que c'est un pervers.
À la chasse, t'es pas supposé parler, mais écouter. En même temps, pas besoin de toujours parler, je suis d'accord.
Ça. Penses-tu vraiment... À la chasse, t'es pas supposé quoi?
T'es pas supposé parler, t'es supposé écouter. Quelqu'un qui dit « En même temps, pas besoin de toujours parler. »
Et Antoine dit « Quand t'as deux caches, ça te donne plus de chances de tuer. »
Ah ouais, mais là, ça
c'est ça, c'est le côté pratico-pratique. J'aime bien Antoine.
Roger, en passant, t'avais le droit de nous écrire ce que tu voulais, là. C'est juste...
Non, c'est un pervers.
Il nous donne beaucoup d'images, puis on avait peut-être pas besoin de ça. On est des pêcheurs, on apprécie nos 12 heures en chaloupe à deux. On a toujours de la jasette. 12 heures! Quelqu'un qui nous écrit qu'il est dans son couple. Oui, parce que je vais perdre la voix, pour vrai. 12 heures.
Dieu merci. c'est 12 heures!
Hey, toi!
Mais encore là, t'es en mouvement, Pascal.
Tu peux empoigner un bouillon.
Encore là, t'es
ben là,
en
dans
mouvement.
Une chaloupe.
Il est dans une chaloupe.
Il pêche. Tu vois, t'écoutes pas. Moi, je parle, toi, t'écoutes pas.
Je pensais en voyage.
Finalement, on est vraiment un vieux couple, le yin et le yan.
Je pensais en voyage. OK. Hey, ce jeu-là m'intéresse beaucoup. Peut-être qu'on pourrait demander à Marc, c'est là, on pourra en faire tirer un aux auditeurs.
Ouais, je vais l'appeler.
Les vieux couples, là.
Enfin.
Ouais.
Enfin. Enfin, t'as une ouverture face à ça.
À quoi?
À ça. L'intellectuel, l'intelligence émotionnelle, le partage. Je sens que j'ai changé quelque chose pour ta prochaine relation de couple, soit celle où tu seras seule, Yannick. Parce que
avec moi-même, avec mon pot de vaseline.
Parce qu'elle est vraiment bonne de t'endurer depuis si longtemps.
Je m'améliore avec le temps. Bon, on revient.
On y va. 3, 2,
1. Le Google Map des sujets d'actualité.
Feu direction en cours.
Ah, ben... OK. Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Pascal CV, je sais pas, ça va être là de demain. Les gens remarquent de plus en plus qu'elle a de la difficulté avec sa voix, fait qu'on va essayer d'y faire attention si on veut qu'elle soit là de demain.
Tu vas être content, ça veut dire que je ne parlerai pas.
Tu parleras pas de la
Mais
soirée.
Tu veux faire attention à moi?
Oui, je fais
ça veut
toujours.
Dire qu'il faut que je me ferme la trappe.
Toujours attention à toi.
Ah oui.
Et pour ce faire, je t'inviterai à aller faire un tour sur notre Messenger. Tape midi, là, je pense que
notre
je viens de te l'envoyer.
Facebook.
Ouais.
Ah non.
La deuxième. La deuxième version.
Va donc suer.
T'as pas le choix.
Moi, j'ai le bonhomme.
C'est le karaoké Pascal.
Non, tu veux la deuxième chanson?
La deuxième, ouais.
Tu m'écœures.
T'es-tu prête?
Ça a été épouvantable.
OK. Fait que là, faut que tu y ailles. Faut que tu le limites, là.
C'est juste pour adoucir ta voix un petit peu.
Ben oui, c'est super.
Ça va y faire du bien. T'es prête?
Okay, ah, c'est chien, j'haïs ça. Je t'haïs, je pense. Je pense que t'haïs. Officiellement. Honnêtement, on n'est pas loin.
T'es prête?
Ouais. Genre, c'est pas de suite. On est même pas sur le cul, cette pauvre femme.
T'es pourri.
Mais je chante pas encore. Arrête, c'est mes cœurs de pas faire ça. Je pourrais dire non.
On va avoir un break demain.
Fait que l'autre, dans le village endormi, mon vieux sac de cuir à l'épaule.
Plus de gaz.
Je suis pas capable, étranger. Oh, ce pays cerné.
Plus fort.
Je suis pas capable de repos, d'un café, d'un bain chaud, d'un lit bordé de draps blancs, terre promise, de l'itinéraire.
On n'entend pas, pas ça.
En chemin. Donc, la crasse, c'est tout ça. Ouh, et c'est pourquoi je m'en déguise. Destiné sans okay. aucun doute.
Donne tout ce que tu peux.
Hey, j'ai mal. C'est vraiment imbécile, hein?
Refrain.
Poussé par le vent, rien dans les poches, je me promène au gré des saisons. Poussé par le vent, au chemin, je m'accroche la bohème. Pourquoi on fait ça? À l'horizon, j'ai chaud. J'ai comme de réaliser l'imbécilité de chaud, là.
T'es pas si pire.
Morceau est cuir.
Morceau et ticu.
Aïe, aïe, aïe.
Non, mais c'est ça. Fait que tu vas pas demander un break pour demain.
C'est bien épouvantable de vous connecter sur Twitch.
On va te faire remplacer par mon chum. Ils se sont connectés sur Twitch.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qui va me remplacer demain?
On va te faire remplacer par Jeff Fortin. Tiens.
OK.
On parlait de sport entre hommes.
Ah.
Ça va être...
Pourri?
Ouais, ben ça va être le show de saucisse, là. On va ramener ça,
ah oui, autres. Oui, oui, OK. OK.
On va être demain.
Saint-Yannick!
Hey, je peux pas... Je sais pas si je peux vous le dire ou pas, mais...
Ouch!
Le RTC, parce qu'actuellement, il y a un debriefing là, de la part de la ministre Geneviève Guilbeault concernant les audits de performance du RTC, et c'est une catastrophe. Fait que finalement, je peux vous le dire. C'est juste que la conférence n'est pas encore finie. Puis on nous a donné une heure de tomber. Mais c'est pas plus grave que ça. Donc, les audits du RTC, c'est une catastrophe.
Oui.
Contrairement à ce que le maire Marchand avait dit avec Denis Gravel en entrevue, comme quoi il n'y avait aucune inquiétude, bien, visiblement, c'est pas pour rien que le maire Marchand ne sortira pas dans les médias aujourd'hui pour répondre des audits de performance du RTC. Parce que c'est une catastrophe. On arrive dernier ou presque dernier partout dans tous les chiffres qui ont été donnés. Puis ça, c'est une étude qui était comparative avec tous les réseaux de transport à la grandeur du Québec.
Avant que tu ailles plus loin, là, y avait-tu trouvé ça correct ou pas si pire? Ah, je sais, mais il faut vraiment que tu te concentres sur mes paroles. Okay? Yannick, s'il te plaît. Ouf, je vendrai pas des bijoux, moi, demain, là, tu comprends? Il faut que je retrouve ma voix. Karine Néron, vous avez pas compris, mais... Yann, est-ce qu'il avait dit que ça ne sera pas si pire parce qu'il savait les projections, il les connaissait, puis il se disait « ça peut pas être pire, il n'y aura pas plus que ce que je connais déjà » parce que ça se peut pas avoir un prononcé comme ça.
Tu vois à quel point j'aime beaucoup les relations publiques. Là. Si j'avais été maire à ce moment-là, je m'étais fait poser cette question-là par Denis Gravel, j'aurais dit « vous savez quoi, on va écouter ce que la ministre mentionne, puis on va appliquer s'il y a lieu d'être les choses qu'on doit modifier ». Il aurait dû un genre de fermer... cette question-là, là,
oui.
Pour lui, la réponse, c'est un genre de tagueule.com. Puis il a dit non, non, je suis pas inquiet. Mais les résultats du RTC sont une catastrophe. Là. On n'est pas parmi les meilleurs. On est souvent dernier ou avant-dernier. Là, à la grandeur de la province, Pascal. C'est majeur, là.
C'est majeur. Puis
lui, il se cache encore. Là.
Quand tu parles de la grandeur de la province, là, mettons, après Montréal, on est quand même l'endroit où ce transport-là doit être le meilleur.
Ben, t'as Laval aussi, qui est un endroit très important.
Oui, pardonne-moi, mettons Laval, Longueuil, ouais. Montréal. Si tu vois avec Montréal et sa grande région, ouais. Là, c'est quand même important pour Québec.
Il y avait eu des comparaisons aussi à la grandeur du Canada. Je pense que c'était à Radio-Canada qu'on avait rendu public ça. Puis le RTC à Québec, au niveau du prorata, là, on devrait l'équivalent de ce qu'ils peuvent vivre à Toronto. Alors que ça a pas de commune mesure, là, je veux dire, le réseau de transport de Toronto.
Même le comparatif que je tente de faire en ce moment, là, c'est Québec. Arrête! Québec est super important, là.
T'es en train de manquer des notes, là.
Québec est super important. C'est pas, tu sais, en Gaspésie, on peut s'attendre, puisque ça ne serait pas nécessairement rentable d'avoir une fréquence, une rapidité, d'une manière. Mais à Québec, si ça fait partie des pires endroits de la province, on a un sérieux problème.
Puis c'est gênant. C'est gênant que le maire Marchand se cache de ça.
Puis on essaie de nous vendre un nouveau projet aussi.
Puis il nous a ajouté une taxe supplémentaire avec l'immatriculation, là. Avant de connaître les audits de performance. Puis là, il est en train de se faire dire que le RTC, au niveau de la gestion, au niveau des chiffres, c'est pas nécessairement bon.
Comment il va s'en sortir? Parce qu'il va falloir quand même faire la promotion d'un transport. Je le sais comment il va s'en sortir.
Veux-tu que je te dise comment il va s'en sortir?
Tente.
Les auditeurs vont... Pas les auditeurs, les journalistes vont lui poser la question. Puis il va répondre par une question.
En la relançant aux journalistes?
Oui.
En même temps, je trouve pas ça trop idiot s'il prend le temps de bien statuer comment il va répliquer à ça, le hic étant. Je peux pas croire qu'il y avait pas ces audits-là depuis plusieurs jours puis qu'il y avait pas possibilité d'être prêt aujourd'hui. À moins que je me trompe, là, que la politique n'est plus comme de cette manière-là. Normalement, quand, mettons, un palier gouvernemental va présenter un dossier, le maire a été mis au courant auparavant pour être capable de répondre la journée même ou dans les prochaines 24 heures. Là, on l'entend pas, il va pas se prononcer.
Ben aujourd'hui, il doit être avec sa doudou là, à la maison, avec sa couverte de honte.
Oh, Yannick!
Avec sa couverte de honte, puis là, il se prépare aux questions qui vont être posées demain, parce qu'aujourd'hui, il va se cacher face aux chiffres qui sont donnés. Puis demain, il va répondre par des questions à des journalistes qui lui posent des questions.
Mais imputabilité, Yannick, là-dedans, ça ne pourra pas, là. Tu sais, c'est un très bon point qui vient de sortir par texto des auditeurs. Il va falloir qu'il y ait des têtes professionnelles qui tombent.
Pascal?
Quoi?
J'ai d'autres choses à te faire faire.
Oh non, tu m'as pas écouté pour ça?
Je peux plus croire.
Vas-y donc, Pascal.
Tout ce qui est marqué sur les murs.
La vie des autres, même en peinture.
Qui est pas là?
Je les connais plus.
Pour les sourires
d'après minuit.
Faut que tu pousses un peu.
M'en veux pas. Mais c'est parce que tu vas me perdre demain, c'est ça?
Si ce soir j'ai envie.
T'es prête?
Casser la voix! Check ça! Casser la voix est pourrie. Ça fait tellement mal, c'est du. Casser la voix! Regarde ça, as-tu déjà entendu? Faussé en plus.
Et les autres qui restent. Se faire prendre pour un.
Ah, finalement, je vais l'avoir mon show de saucisse avec Jeff demain, là. Ça s'en vient, je le sens.
Casser la voix, oui.
Y a-tu une autre nouvelle plus importante à savoir?
Il y en avait plusieurs, là. On va prendre une voix un petit peu plus importante. Si on clôture les élections américaines, du moins pour aujourd'hui, Joe Biden qui s'est adressé aux Américains un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc le président sortant de 81 ans, victoire de Donald Trump dans les dernières heures. Il a laissé sa place, rappelez-vous, Joe Biden, en juillet, à sa vice-présidente qui représentait les démocrates à cette élection partielle. Et il parle de l'élection. Il concède la victoire à Donald Trump. Particulier quand même de le voir, il dit que lui et son équipe peuvent être fiers de leur campagne, quand même applaudit ce qui a été fait du côté des démocrates. Il a dit « Le peuple a voté, le peuple choisit. On doit continuer avec cette élection-là, on doit accepter ce vote-là, on doit faire avec ce qui est juste, transparent et digne de confiance pour la suite des choses. » Les campagnes électorales, il dit, sont des concours durant lesquels les visions s'opposent, s'affrontent, les reculs sont inévitable, mais l'abandon est inacceptable. Il a renchéri avec le fait qu'on ne peut pas aimer son pays uniquement lorsqu'on gagne. On ne peut pas aimer ses voisins uniquement lorsqu'on est d'accord avec eux. Okay. Ça a été les paroles de Joe Biden.
Ouais, j'aime ça. Pascal?
Tu m'entends? Non.
T'es-tu prête? T'en souviens-tu de celle-là? Jerry?
Je suis celui qui marche, c'est ça? Mais là, il est doux au début.
Je suis celui qui marche quand l'air m'en arrache, quand l'amour me chatouille comme à gauche.
Ok, c'est parce que ouais, ça prend
je
les paroles.
Je suis celui qui marche en avant.
Qui regarde, okay, c'est bon, j'ai les paroles.
Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte.
Salut, la soirée est encore jeune.
T'es bonne. Même avec une extinction de voix, t'as la même voix que Jerry Boulay, c'est malade.
Ah oui, c'est
t'aurais malade. Pu faire carrière.
Moi, j'aurais pu être...
À grand coup d'amour.
Hey, cette voix-là ne me représente
mettons
pas.
Mettons un gars qui te regarde dans les yeux et dit « Je veux te frapper là, dans la vie à grand coup d'amour. »
Puisque c'est Jerry, j'accepte. Mais si c'était Éric Lapointe, non.
T'appelles la police. Bon, c'est assez le niaisage.
Merci. Hey, c'est super. J'avais hâte, par contre, parce que je me sens exploité comme un animal de foire.
Fait que t'oublies pas, ponce de gin ce soir, c'est la solution.
Ah! Avec un peu de miel vie citron?
Au plus de gin possible.
Mais là...
Passe au travers de la bouteille s'il faut.
Ah, super, là, c'est sûr, je rentre pas demain, hein?
Puis à demain.
Hey, c'est fini.
Peut-être.
Là-dessus.
Oui.
Fais faire vos plaintes, hein, pour Yannick Marceau.
Véro s'en vient avec Nate et Max, et moi, j'aurais plaisir. Je dis,
allume-toi une autre cigarette. Moi...
Ouais. Mais c'était pas une bonne idée de commencer à fumer, Pascal. Visiblement, là, ça, ouais, ça marche pas. Véro s'en vient avec Nate puis Max, puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir, 18h, pour Marceau Soir.
Sing for me, my puppet.
Salut!